Merci Nathan, on se retrouve dans une heure.
BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderi.
Bienvenue dans votre TPI, tout pour investir, l'émission au service de votre argent qui vous aide à devenir de meilleurs investisseurs. Bon, allez, on vous le rappelle, on est en direct à la radio, à la télévision, sur le web. Vous nous écoutez évidemment en podcast. Alors évidemment, première heure de cette émission extrêmement riche au vu de l'actualité politique. Bien entendu, énormément de questions à se poser et de lignes à faire bouger peut-être dans votre épargne en fonction de ce qui est en train de se passer sur le terrain de la vie publique. Retour sur l'info qui fait bouger les marchés ces derniers jours avec François Meunier d'Investir qui est avec nous. Tout à l'heure, Olivier Lévy de Lévy Capital Partners. On suivra évidemment ce qui se passe du côté de la Bourse de Paris qui va toujours pas très très bien. On est sur des plus bas qui datent de février à peu près pour le CAC 40 du côté des 7600 points. On ira à Euronext tout à l'heure avec Aude Kersulek. Le match des traders, pour préciser un petit peu les points techniques à suivre de cette fin de semaine qui est quand même particulièrement turbulente et pénible sur les marchés boursiers. 10h30, votre dose d'économie sera Stéphane Pedrazzi ce matin. Grosse page immobilier, bien sûr. Que faire avec son immobilier en fonction du contexte actuel? On sera avec Marie-Cœur de Roy et ses experts. Et puis, au milieu de cette émission, bien entendu, vous pouvez nous joindre par mail direct à bfmbusiness.fr. Vous écrivez à Lorraine Goumeau sur sa messagerie privée LinkedIn. On répondra à toutes les questions que vous y posez. Et puis, par SMS aussi, SMS au 73216, vous tapez le mot clé business et vous posez votre question. Tout de suite, on se rend à Euronext avec Aude Kersulek pour prendre la température de ce début de séance à Paris. Et autant dire que ça va pas fort, Aude. Bonjour, le CAC 40 déjà en baisse de quasiment 1,5%. On est sur des plus bas de février quasiment pour le CAC 40. Et la semaine, on le disait, est quand même particulièrement pénible.
Non, c'est vrai, là on vient d'enfoncer les 7600 points, 7594 points, moins 1,5%, alors qu'on voyait un petit peu de vert avant l'ouverture. Ça s'est transformé déjà en rouge à l'ouverture et puis ça s'est bien empiré hein, depuis une heure de cotation maintenant, après déjà hier aussi la pire séance de l'année, hein, on s'en souvient, moins 2% pour la Bourse de Paris, de fort volume aussi. Hein, et bien là, on continue d'être dans le rouge. Et des rouges, c'est rouge quand même sur les marchés européens. Le DAX qui perd 0,6%, l'Eurostox moins 0,9%. La Bourse de Paris qui est donc quand même un petit peu moins bien logée que ses consoeurs européennes. Et c'est vrai que la seule valeur en hausse, eh bien, c'est Dassault Systèmes. Et encore de très peu, puisque elle monte de 0,2%. Tout le reste est dans un rouge, et un rouge bien bien prononcé pour la banque, hein, Société Générale, qui perd encore quasiment 4% aujourd'hui. Les deux derniers jours ont déjà été sanglants hein, pour les valeurs bancaires. On a Crédit Agricole qui perd aussi 3%, tout comme BNP Paribas. Thalès, là aussi à l'instant, moins 4%. Et donc, c'est tout finalement, tout le CAC 40 hein, qui est orienté dans le rouge. Sur le SBF 120, on a quand même une exception. L'exception, c'est Atos. Une fois n'est pas coutume, après les annonces du matin, le pot marché du matin pour Atos, c'était la lettre de l'État qui confirme l'offre faite sur les activités stratégiques de BDS. Alors, c'est pas exactement le périmètre de BDS, mais c'est sur une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros, donc qui devrait être vendue au profit d'Atos. Et puis, la déception du jour sur le marché large, c'est Solution 30, moins 8,6%. Pourquoi ? Parce que Euronext a révisé hier la composition des indices. Pas de changement sur le CAC 40, c'est sur le SBF 120 que ça a bougé. Solution 30 qui va quitter les 120 plus grosses capitalisations au profit d'ailleurs de Casino Guichard hein, qui re-rentre de nouveau. Donc voilà pour les actions. On regarde quand même aussi ce qui se passe du côté de l'obligataire hein, forcément. On a pourtant une détente depuis hier sur l'obligataire français notamment. 3,12%, on était à 3,9%. 0,17% hier en clôture du marché obligataire. On a donc perdu 5 points de base, mais si on regarde le spread avec l'Allemagne, bah, il a finalement un petit peu augmenté parce que le taux allemand a encore plus descendu que le taux français, 2,4%. Ça veut dire 72 points de base de spread. C'est vrai que c'est un petit peu plus qu'hier. Voilà donc pour le marché parisien. Donc de nouveau dans le rouge. On a passé donc sous les 7600 points et on perd 1,4%, Antoine.
Merci Aude. On revient là-dessus dans le match des traders dans une dizaine de minutes. Mais effectivement, une situation qui paraît compliquée sur le CAC 40 qui connaît une semaine particulièrement difficile. Moins 1,39%. Tout de suite, l'actualité qui fait réagir vos marchés, vos investissements.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
François Meignier d'Investir, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Antoine.
Ce vendredi, et on le voit donc, hein, tendance toujours passablement négative du côté du CAC 40, on le dit, ça nous poursuit depuis le début de la semaine, mais c'est vrai qu'il y a une vraie bonne question à se poser, c'est que généralement quand il y a un événement politique, un événement vraiment de cette ampleur, hein, comme a pu l'être le résultat des élections européennes, puis l'annonce de la dissolution, généralement on a un gros pain, le lendemain de l'annonce, puisque bon, ça se fait un dimanche, et puis les choses se temporisent. Là, on a l'impression que ça baisse petit à petit. Comment ça se fait, selon vous ?
C'est encore plus inquiétant lorsque la baisse elle est froide, elle est mécanique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion sur le marché.
C'est la crevaison lente, quoi.
Oui, c'est une crevaison lente et qui montre que finalement la tendance haussière qu'on avait pu observer jusqu'à la semaine dernière, eh bien, elle est cassée. Elle est cassée parce que on a beaucoup de doutes, bien sûr, sur le programme des candidats extrémistes aux élections législatives. On a eu en début de semaine le sentiment que finalement le programme du Rassemblement national allait ressembler plutôt à la même stratégie économique que Giorgia Meloni en Italie, mais on se rend compte finalement que c'est pas forcément un programme national libéral. C'est une notion libérale qui inquiète beaucoup les investisseurs. Et à la Bourse de Paris, vous avez 37% d'investisseurs étrangers. Donc quand vous êtes un investisseur japonais ou américain, vous vous posez des questions en disant, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire en ce moment que d'investir sur des actions françaises ? On a vu en 2017, ce sont les Japonais qui ont été les premiers à sortir du marché lorsque on a eu des sondages qui montraient que le Rassemblement national allait faire un score tout à fait important lors de cette élection présidentielle. Et lorsque les Japonais ont quitté en tout cas, on se sont mis à fuir la dette française, tout de suite, on a eu une flambée du taux à 10 ans français de près de 30 points. Là, on monte de 20 points. 20 points, si on maintient cet écart de 20 points, c'est 500 millions d'euros de coûts financiers pour l'État français. Si l'écart il est de 100 points de base, donc de 1%, si on passe de 3 à 4%, c'est 2,6 milliards de coûts financiers en année pleine, et c'est bien sûr comme la dette, chaque année on en contracte de nouveau, tout de suite vous avez un effet d'accélération de cette dette, c'est que le coût de 2,6 milliards, eh bien la deuxième année ça devient 6,6 milliards, la cinquième année ça devient 17,2 milliards, et donc on voit que tout de suite ça part en vrille.
Et puis on a les agences de notation qui regardent, et qui sont déjà passablement...
Qui regardent, et on a eu l'expérience de Liz Truss au Royaume-Uni qui en 2022 vous voulez faire un programme extrêmement massif de dépenses publiques pour soutenir le pouvoir d'achat. Mais ce programme ne semblait pas réaliste aux investisseurs qui ont bien sûr fui le Royaume-Uni et les taux ont flambé. Résultat, elle a pu tenir que 45 jours à la tête du gouvernement britannique. Il y allait avoir une asphyxie financière de la Grande-Bretagne.
Bon, à la différence quand même que lors de cet événement, on a quand même les fonds de pension britanniques qui ont commencé à calancher. Et que nous, on n'a pas cette problématique-là, j'allais dire heureusement, parce que là, on avait un aspect systémique qui menaçait l'ensemble de l'économie britannique. Nous, on est un peu à l'abri. Malgré tout, c'est pas ça qui va rassurer l'ensemble des investisseurs qui regardent ça sans doute avec inquiétude. Je pense aux investisseurs japonais, mais même aux investisseurs américains, parce qu'on voit qu'à la mi-journée, quand les traders américains se mettent à trader les actions européennes, c'est clairement la France qui est dans le viseur.
Oui, bien sûr, et on voit que, par exemple, la tech américaine se comporte mieux cette semaine, etc. Donc, le marché, il y a vraiment une réallocation géographique qui est en train de s'opérer sur la bourse, mais aussi sur le marché obligataire, et qui se fait doucement. Et généralement, quand on a des baisses comme ça qui sont pas émotionnelles, ça montre que voilà, il y a une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner. Ça va s'affiner, bien sûr, les réactions boursières au fur et à mesure qu'on va connaître vraiment le détail du programme, parce que pour l'instant, on reste encore un petit peu flou sur les véritables intentions. Et on a vu que sur les retraites, il y avait peut-être un retour en arrière, et ça a rassuré lors d'une séance, lorsqu'on a vu que c'était pas forcément la priorité du Rassemblement National, et donc ça a rassuré un petit peu les investisseurs, mais ça suffit pas. Il faut éclaircir le sujet. Est-ce qu'il y aura de nationalisation ou pas des autoroutes? Privatisation l'audiovisuel public? Est-ce qu'il y aura vraiment réduction de la TVA? Enfin bref, c'est beaucoup d'inconnus. Et quand il y a de l'inconnu, de l'incertitude, eh bien les investisseurs se disent, on va aller plutôt sur des territoires où on a plus de visibilité. Et ça provoque bien sûr des réactions. Là, le CAC 40 perd près de 5% cette semaine. On a des taux qui se tendent. On a des banques, bien sûr, qui sont bien sûr aux premières loges, qui perdent plus de 10% de leur capitalisation. Donc on voit que la réaction, elle commence à être forte. Et c'est ce phénomène que chaque jour se ressemble. Et donc on va voir comment se termine exactement la semaine. Mais là, la tendance, elle est clairement cassée. Ouais.
Ouais, justement, regarder ces histoires de tendance et peut-être bien de techniques qui peuvent avoir leur importance avec le match des traders tout de suite qu'on ouvre.
Tout pour investir, le match des traders.
Jean-Louis Cussac de Perceval Finance Conseil, bonjour. Et puis Michel Delobel de chez MW Gestion. Alors c'est vrai qu'on le disait, on a cette baisse qui est sensible, mais qui s'étale dans le temps, qui n'est pas un fait ponctuel. Elle est progressive. Maintenant, si on regarde les niveaux sur lesquels on travaille en ce moment, qui remontent à peu près à février, et c'est quelque chose qu'on notait il y a encore quelques semaines, on a un gap qui est très spectaculaire à combler. Est-ce que ça explique aussi cette situation technique? On commence peut-être avec Jean-Louis.
Non, le gap, il faut l'oublier. D'abord, il est trop loin, il n'y a pas d'intérêt, il y a eu des dividendes. Non, il y a simplement des craintes normales, on va dire. Les investisseurs vendent sans trop forcer. Vous voyez, des ordres comme ça, quand on est gérant, on donne des ordres de vente sans forcer, ou soignant, etc. Là, on va dire, ça avance sans trop forcer, mais c'est voilà, il y a une pression constante. C'est pour ça que vous voyez un peu ce rouleau compresseur. Il y a pas des volumes énormes. Hein. On est à 600 millions à peu près là. Moi, j'avais donc un objectif immédiat. Enfin, on est passé vendeur déjà sous 7770. On était déjà méfiant avant, neutre. Enfin bon. Et les objectifs maintenant, c'est 7505, 7230. Voilà, on peut y aller. Hein. C'est pas si loin que ça. Donc pour beaucoup d'acteurs, c'est allez, on vend, rendez-vous en septembre. Pourquoi? Parce que les marchés devraient rester très incertains pendant plusieurs semaines, le temps de comprendre évidemment les intentions du gouvernement qui sera élu, ses capacités à agir, parce qu'entre les promesses électorales et la réalité du terrain, il y a un gap. Là par contre, celui-là, il est important et il est vraiment très fort. Ça me rappelle un petit peu 1981, où on prêtait au gouvernement de François Mitterrand des choses terribles, et puis en définitive, ce jour-là, ça a perdu 30% le marché, 30 et quelques. Je me souviens, c'est Matra qui avait coté en dernier, le lendemain, même pas le jour même, à moins 50%. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une vague de hausse assez incroyable. Bon voilà, donc faut toujours se méfier de ce genre de situation, on est loin bien évidemment, mais quand même, ça rappelle des petits souvenirs. Là pour l'instant, c'est vrai, on vend, on observe des ventes sur les indices parce qu'on voit énormément de régularité. Alors il y a eu des cibles au départ, hein. Toutes les cibles sur lesquelles, tous les secteurs sur lesquels l'État a des leviers, donc nationalisation des autoroutes, du coup Vinci se casse la figure, Engie, parce que l'électricité, le gaz, enfin toute l'énergie qui est pour lesquelles on pourrait fixer des prix, enfin on peut imaginer plein de choses. Donc tout ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui évidemment a été vendu immédiatement avec le système, avec les banques, mais bon, voilà, derrière c'est plutôt assez régulier, c'est pas non plus sauf qui peut. On a la vol implicite qui a monté tout de suite. Et puis là, elle est à 17, hein, quasiment 17 sur le CAC 40. Elle est à 15 sur l'Eurostox. Il y a moins de stress. Aux États-Unis, on a toujours l'IA qui mène la danse. Et puis les signaux plutôt positifs de l'économie. Donc on a une très grande divergence. C'est rare. Il est rare de voir une telle divergence sur du très court terme entre les performances américaines et européennes. Et il est vrai que quand on est étranger, quel est l'intérêt d'acheter la France ou l'Europe actuellement qui est sous pression? Et un bon indicateur de confiance, peut-être que ce sera plus facile pour les auditeurs de regarder l'euro-dollar plutôt que le OAT, hein, c'est un peu plus compliqué à aller chercher. Donc oui, actuellement, l'euro donne un bon indicateur.
Oh, on a perdu Jean-Louis. Zut alors. Non mais, merci Jean-Louis, je crois qu'on a compris l'essentiel du méchant. Michel Delobel de chez MW Gestion, vous êtes avec nous. Oui. A priori, une correction qui vous semble raisonnable, modérée, ou est-ce qu'il y a des risques d'accélération selon vous?
Alors, il y a toujours des risques, on peut pas savoir d'où peut venir le risque, mais c'est le principe justement. Quand c'est anticipé, en général, ça pose pas trop de soucis, c'est plus les mauvaises surprises qui peuvent générer des baisses, comme l'a été la dissolution, et c'est ce qui a un petit peu provoqué le choc. Après, je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport au CAC 40. C'est vrai qu'il est de retour sur les niveaux du mois de janvier. On a cassé les plus bas qu'on avait touchés au mois d'avril, et tout début mai. Si on regarde l'Eurostock 50, on n'a même pas cassé les plus bas d'avril-mai, justement. Donc c'est sûr que le CAC 40 donne une figure qui n'est pas forcément très, très encourageante. En même temps, il ne fait que consolider pour l'instant la hausse qu'on avait eue depuis le début du mois depuis le mois de janvier, et encore plus la hausse qu'on avait eue depuis la fin du mois d'octobre en 2023. Donc je pense qu'il faut relativiser un petit peu. Comme le disait Jean-Louis, on a souvent des réactions un petit peu épidermique quand il s'agit de politique, mais c'est pas forcément très durable parce que quels que soient les programmes qui soient présentés, la réalité du terrain est souvent un petit peu différente. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut garder raison. Certes, le CAC 40 se replie un petit peu plus que les autres indices, ça paraît tout à fait compréhensible, mais il faut pas oublier non plus que nos entreprises sont quand même avant tout internationales. Et puis encore une fois, l'Eurostock 50 ne donne pas aujourd'hui de vrai signal de baisse. Ça pourrait être le cas, hein, dans les prochains jours, parce que là aussi, l'Eurostock 50 a peut-être besoin de consolider la hausse qu'on a eue depuis le mois d'octobre 2023. Pour moi, c'est un mouvement qui est même plutôt sain. La hausse qu'on avait ces derniers temps, des fois reposait pas forcément sur grand-chose. D'un point de vue graphique, il y a des gaps à combler. Il y a un certain nombre de choses qui me semblent plutôt rassurantes dans cette baisse à aujourd'hui, hein, bien évidemment. Il faudra voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Mais d'un point de vue saisonnalité également, on sait très bien qu'à l'approche de l'été, les gens sont tentés de prendre des bénéfices. Ben là, voilà, ils ont une raison toute trouvée pour accélérer un petit peu le mouvement. Il faudra voir dans quelques semaines, une fois que les élections seront passées, que les choses se mettront en place, de voir un petit peu ce qu'il en ressort.
Merci Michel Delobel, merci Jean-Louis Cussac qui était avec nous. Merci pour ce match des traders. Allez, tout de suite, tout pour votre argent, tous les sujets marchés du moment, et Dieu sait qu'il y en a.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
François Monnier, bon, on a longuement parlé de la situation sur les marchés, aussi bien obligataires que les actions. Il y a Olivier Lévy d'Olivier Capital Partners qui est venu nous rejoindre. Bonjour. Messieurs, globalement, comment on investit dans ce contexte ? François.
D'abord, on essaie de regarder ce que font les professionnels. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des allocations, des nouvelles allocations géographiques et des arbitrages. Avec deux types de comportements. Vous avez le comportement de l'investisseur qui est monde et le comportement de l'investisseur européen. L'européen, là, il est en train de courir en ce moment par rapport à son benchmark, son indice de référence, pour pas être trop distancé. Et il voit, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que la poche Action France, eh bien, lui génère de la contre-performance. Et donc, il vend des actions françaises pour se positionner sur des actions suisses, sur des actions allemandes. Et là, on a une forte rotation à l'intérieur de la zone euro ou de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous avez des investisseurs internationaux qui disent finalement, la France, voire l'Europe, c'est pas forcément le meilleur moment. Donc, oui, les États-Unis sont chers, mais c'est là-dessus que j'ai la meilleure visibilité, probablement des meilleurs signaux sur la croissance des bénéfices et de l'innovation. Donc, je réalloue la poche Europe pour aller sur les États-Unis. Et ça, ce sont des mouvements qui se font de façon extrêmement mécanique, façon organisée. Et là, on voit qu'il n'y a pas du tout de mouvement de panique sur les actions. Non. C'est vraiment, on ajuste, et à chaque fois que vous allez avoir le CAC 40 qui baisse, eh bien, vous avez à nouveau une réallocation pour dire je réduis cette poche-là. Et donc, finalement, c'est vraiment une approche momentum. On suit la tendance. La baisse génère la baisse, génère la baisse. Et là, c'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Parce que pour qu'il y ait un mouvement de panique, il faudrait vraiment qu'il y ait une annonce forte sur, au niveau d'un programme d'un des candidats. Notamment, on pense au Rassemblement National, pour générer le mouvement de panique. Pour l'instant, le programme reste flou, avec quelques petits détails, mais on n'est même pas sûr que le programme sera, c'est ce qui sera appliqué éventuellement lorsqu'il y aura une prise de pouvoir. Donc on agit vraiment quasiment au jour le jour, mais il ne faut pas sous-estimer cette tendance de fond froide, qui est extrêmement, parce qu'on sort quand même d'une période de tendance haussière extrêmement solide. Là, la tendance haussière, elle est cassée. Et c'est pas juste des prises de bénéfices pour l'arrivée de l'été. On est vraiment sur un nouveau scénario, et donc il faut qu'on arrive à bien connaître et identifier les règles de jeu de ce nouveau scénario. Et on sait que la visibilité va être très très faible pendant tout l'été, et que véritablement les décisions politiques vont être prises à la rentrée.
Olivier Lévy, votre sentiment là-dessus, on a une vraie prime de risque désormais sur les actions françaises, sans doute. Comment vous sentez la chose avec votre regard de professionnel?
Alors nous, chez Lévy Capital, on pense que cette crise politique majeure a des impacts pour notamment les grands investisseurs institutionnels qui regardent effectivement et qui vont attaquer notre dette qu'on ne maîtrise pas, en fait, si vous voulez. 52% de la dette française est détenue par des non-résidents. En Italie, c'est 34%.
C'est beaucoup moins, oui.
C'est beaucoup moins. Donc, vous avez les investisseurs institutionnels qui, eux, comme l'a dit François, vont plutôt aller vers du Bund, de l'obligataire allemand, et diversifier leurs risques géographiques en réallouant vers les marchés américains. L'investisseur particulier français, lui, s'il est très anxieux, effectivement, d'un possible choc au deuxième tour d'extrême, va peut-être réallouer, continuer à réduire la voilure sur du monétaire, sur de l'obligataire non français. Nous, chez Lévy Capital, on diversifie le risque France depuis 2011. C'est-à-dire qu'on va vers des contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois pour des patrimoines qui ont au moins 300 000 euros. Les contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois, si vous voulez, sont un peu plus protecteurs, puisqu'ils ne concernent... La loi Sapin 2, qui peut immobiliser les contrats d'assurance-vie en France, ne concerne pas le Luxembourg. Ce sont des contrats portables à l'international. Donc, si vous voulez, on vit dans un monde très anxiogène où, très clairement, il va falloir rationaliser son patrimoine si on ne l'a pas déjà fait, si on n'avait pas d'ores et déjà réduit la voilure, puisque, comme l'a dit François là aussi, on ne connaît pas l'impact de toutes ces mesures qui pourraient être remaniées sur les banques, hausse des taux, où est-ce qu'on va aller ? Super taxation des profits, où est-ce qu'on va ? Sur les foncières, qui sont principalement immobilières en France,
qui
sont franco-françaises, celles-là, elles empruntent ici et leurs clients sont français. Pareil, dans les médias, on l'a dit, nationalisation des autoroutes, etc. Donc, bon nombre, effectivement, de mesures dont on ne connaît pas encore les impacts. Et la bourse a besoin de certitude. Elle anticipe, là, aujourd'hui, un monde d'après la dissolution qui est un point d'interrogation
feuille totale. Feuille blanche totale, effectivement.
La visibilité sur le programme et les évolutions du programme, on le mesure vraiment en temps réel sur l'évolution des taux d'intérêt.
Complètement.
Acte 1, oui. On a eu pendant deux jours le taux de la dette française à 10 ans qui a pris 20 points de base. On est passé de 3% à 3,20. Ça s'est calmé. On est resté à 3,20 parce que Jordan Bardella a dit que la réforme de la retraite, le retour à 60 ans, c'était plus la priorité. Et donc, ça s'est calmé. Mais on voit que quand même les investisseurs sortent du marché français pour aller acheter des obligations allemandes. Et le taux allemand, qui était resté stable pendant quelques jours à 2,60, est en train de baisser.
Comment
parce qu'il
baisser,
y a beaucoup d'acheteurs d'obligations allemandes. Donc ça fait baisser le coût de la dette des Allemands. Donc finalement, cette opération montre que le coût de la dette française coûte plus cher. Donc l'État français va devoir payer plus cher et se ruine un petit peu. Alors que l'État allemand, lui, va avoir la possibilité de se financer à meilleur compte. Et donc, ce qu'on appelle le spread, l'écart de rendement entre les deux, eh bien, il s'agrandit aujourd'hui. En tout cas, ce matin, on a 70 points de points de base d'écart entre le taux français et le taux allemand.
Ce qui augure trois bonnes semaines de volatilité, dans le sens où, en plus, du côté du Front populaire, on ne sait pas grand-chose. Et que là aussi, ça va réagir au cas par cas et sans doute avec des réactions un petit peu volatiles.
Oui, je pense que très clairement, on est dans le monde d'après est totalement inconnu. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et en bonne gestion, là aussi, certains ont d'ores et déjà réduit la voilure. Pour ce qui concerne l'épargne des Français, bah, il faut aussi avoir le temps long avec soi. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des opportunités à mesure où on aura un peu plus de rationalité entre les deux tours. Où là aussi, bon, bah, là, on aura effectivement des scénarios qui vont se dessiner. Aujourd'hui, là aussi, le spread de taux mécaniquement va continuer à s'écarter. Je vois pas pourquoi les grands investisseurs institutionnels du monde entier détiendraient encore à ce stade-là de la dette française en portefeuille, parce qu'on on leur en voudrait d'en avoir une surpondération avec un monde qui là aussi va se réécrire avec une nouvelle feuille de route. Donc une feuille de route pour combien de temps, sachant que on a une guerre sur le sol européen, qu'on essaye et qu'on a réessayé de réindustrialiser en France, que la transition énergétique va coûter beaucoup d'argent et que l'inflation, même si elle a eu baissé avec la statistique récente aux États-Unis et en France, pourrait être à nouveau volatile. Parce que là aussi, la défiance des grands investisseurs concerne surtout la déroute annoncée possible des finances publiques.
Merci beaucoup Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners, François Meunier, directeur de la rédaction d'Investir. Merci d'avoir été avec nous pour commenter cette chaude actualité politique qui a des effets directs sur le CAC 40, hein, notamment. On est au plus bas depuis février. On semble vouloir se stabiliser sur les 7600 points. Une petite pub et on retrouve Stéphane Pedrazzi pour la dose d'économie.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose d'économie. Et ce matin, c'est avec Stéphane Pedrazzi. Bonjour Stéphane.
Bonjour Antoine.
Donc on l'a vu, hein, le marché obligataire qui reste tendu par le contexte politique en France. Et l'écart de taux, on l'a expliqué, hein, il y a eu une petite détente, mais l'écart de taux avec l'Allemagne se rapproche des 70 points de base. Et c'est une cote d'alerte vraiment violente.
Oui, 67 exactement points de base actuellement, avec le risque, vous l'avez dit, de voir ce spread s'élargir dans les prochains jours. Alors dans la zone euro, l'Allemagne est considérée comme le meilleur élève par les marchés. D'ailleurs, le Bund allemand à 10 ans sert de référence lorsqu'on mesure les écarts de taux entre les pays européens. La France, elle, est considérée par les marchés comme étant un peu plus risquée, mais sans excès, pour plein de raisons, notamment le niveau d'endettement, mais aussi le niveau de dépenses publiques et la politique budgétaire au sens large. Malgré tout, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est toujours resté dans une fourchette entre, on va dire, 20 et 40 points de base sur les taux à 10 ans. Donc 67 aujourd'hui, on est largement au-dessus des niveaux, on va dire, habituels. C'est pratiquement le double des niveaux habituels. C'est plus qu'au moment de la crise sanitaire, mais ça reste quand même deux fois inférieur à ce qu'on avait enregistré en 2012 au moment de la crise de la dette en Europe.
Alors, justement, est-ce que la France risque de, alors pour le coup, complètement décrocher par rapport à l'Allemagne?
Alors, dans un premier temps, ce que price le marché, c'est l'incertitude. Et d'ailleurs, Moody's l'avait dit très clairement en début de semaine. Selon l'agence de notation, le parti qui sera vainqueur des élections législatives dans quelques semaines n'aura probablement pas de majorité absolue, ce qui va donc rajouter de l'incertitude et donc un risque de crédit. Après, la suite, ça va dépendre évidemment du résultat de cette élection. On a beaucoup parlé du programme du Front National, du Rassemblement National, programme économique, avec un risque sur la dette. Rappelez-vous, en 2022, l'Institut Montaigne avait calculé que le programme économique de Marine Le Pen coûterait une centaine de milliards d'euros, c'est-à-dire entre 4 et 5 points de PIB, essentiellement par de la dette supplémentaire. Pour le programme du bloc de gauche, on aura des informations dans les prochaines heures, puisqu'il va être présenté à midi. Mais d'après les premiers éléments, là encore, il y aura des dépenses supplémentaires. On parle d'indexer les salaires sur l'inflation. On ne sait pas quel salaire pourrait être concerné, mais là encore, ce seront des dépenses supplémentaires qui, pour certaines, sans doute, ne seront pas financées. Donc, il y a effectivement un risque sur la dette.
Alors, quel est le risque particulier par rapport à l'Allemagne, finalement?
Alors, j'en vois trois essentiellement. D'abord, l'augmentation des déficits et de la dette avec des contraintes budgétaires qui vont nous empêcher d'investir dans notre avenir, donc d'investir dans la formation, dans l'éducation, dans les nouvelles technologies. Il y a une perte de compétitivité. On parlait des salaires à l'instant. Si on demande aux entreprises d'indexer les salaires sur l'inflation, les entreprises vont voir leurs marges se réduire et elles vont avoir des problèmes de compétitivité à l'international. Et puis, quelque chose de très important pour les marchés, notamment obligataires, la perte de confiance dans la signature de la France. Moody's l'avait dit à mots couverts en début de semaine.
Totalement.
La France risque tout simplement une dégradation de sa note de crédit.
Avec une rétrogradation, en fait, dans les pays du Club Med, comme on dit.
Oui, on parle beaucoup de... aussi les PIGS, rappelez-vous,
les PIGS,
il y a quelques années. Ouais.
La zone sud. Et, de l'Europe, ouais. Et on parle depuis le début de la semaine du fait que la France se retrouve quasiment avec des pointes sur ses taux obligataires quasiment équivalentes aux 10 ans portugais, par exemple.
Eh oui.
Et il ne faut pas oublier que la Grèce... Vous avez regardé à combien est la Grèce ?
Là, ce matin, non.
Ils sont à 3,76.
Voilà.
Ils sont...
On n'est plus très très loin de la Grèce. On est à 3,17 en ce moment sur le 10 ans français.
Absolument. Merci beaucoup, Stéphane Pedrazzi.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Bon, période agitée, il faut un petit peu consulter les gens d'expérience, les oracles. Et ça tombe bien, nous avons Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bon, les marchés actions et taux qui se sont mis vraiment en mode défiance, en mode prudence depuis lundi. Alors, selon vous, est-ce que déjà le gros de l'orage est passé ? On voit que c'est encore difficile à la Bourse de Paris. Bon, c'est toute mis cette semaine boursière à la poubelle, visiblement. Mais est-ce qu'on a touché le fond du seau, si on peut dire ?
Non, je crois pas. Non, probablement pas, parce qu'en fait, les marchés ont acté un changement de majorité. Donc aujourd'hui, plus probablement le RN d'après les premiers sondages. Et vous savez comme moi que les marchés fonctionnent vraiment avec des dynamiques. Et là, on a une rupture qui a été enclenchée du fait de la dissolution depuis dimanche soir. Et ça devrait avoir des effets encore pendant quelques temps. Donc je ne vois pas un retour au calme pour tout de suite. En clair, jusqu'au 8 juillet, on va avoir une période très volatile.
Alors, quand vous parlez de dynamique, vous partez du fait que la hausse des taux, finalement, entraîne le marché actions à la baisse. C'est le principal catalyseur, en vrai.
Oui, alors, c'est assez normal, en fait. Et on l'a vu pendant les crises précédentes de la zone euro, puisqu'on n'a plus les devises pour s'ajuster. On n'est pas un pays hors zone euro où il y aurait des possibilités d'ajustement avec la devise. Là, la seule couverture possible qu'on a, à court terme, pour les investisseurs, c'est d'alléger les positions obligataires et de se couvrir avec des futurs sur les marchés de taux. Et cette première décision des investisseurs a des conséquences mécaniques, puisqu'en fait, la hausse des taux impacte, alors là c'est un effet immédiat, mais aussi un effet un peu plus long terme, ça impacte les valeurs financières, ça impacte donc les entreprises qui ont besoin de financement, et ça impacte les valeurs de croissance. Et en fait, cette hausse des taux pénalise l'activité. Et au bout d'un certain temps, c'est un calcul des investisseurs qui se disent que ça va avoir un impact sur les petites et moyennes entreprises qui tirent leur croissance et qui tirent leur activité de leur zone domestique. Et donc, ça explique aussi une large partie de la performance médiocre des mid des small cap cette semaine, qui a été encore pire que les grandes capitalisations. Donc, vous voyez, c'est un effet domino. Et ça va pas se calmer tout de suite.
Alors, on l'a vu avec nos traders tout à l'heure. Bon, eux, ils parlent quand même de réactions relativement modérées. Je vais y aller prudemment. Mais enfin, si chaque semaine, d'ici les élections, les taux prennent 40 points de base et que le CAC 40 perd 4 ou 5%, bon, ça va commencer doucement à ressembler à un crack, tout ça, Alain.
Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut voir, et ça, je pense que ça se reflète aussi, je suis un de vos intervenants réguliers, Romain Daubry, qui l'évoque régulièrement, il est un peu étonné du manque de volume sur les marchés. En fait, il y a une énorme incertitude. Effectivement, peut-être qu'on va pas avoir des mouvements de 40 centimes sur les taux et une baisse de 4% par semaine de ce fait-là. Mais en fait, c'est cette baisse des volumes et concomitante à une baisse des marchés, ça traduit vraiment cette incertitude des investisseurs. Et là, comme vous savez, comme le lapin qui est dans les phares de voiture et qui bouge plus. On est un peu dans cette situation-là aujourd'hui. Alors c'est quand même pas très bon, même si effectivement j'entendais tout à l'heure un de vos intervenants, un de vos traders qui disait que il fallait pas réagir trop vite. Malgré tout, c'est ce qu'on constate. Bah, les investisseurs aujourd'hui, ils font rien aujourd'hui. Donc, on va attendre un peu encore.
Bon, alors, qu'est-ce qui pourrait atténuer, inverser un petit peu ce scénario de la baisse qui entraîne la baisse, quoi, finalement?
Oui, alors à court terme, ce qui pourrait calmer les choses, c'est une bonne, voire une très bonne tenue des marchés internationaux, c'est-à-dire que on pourrait avoir un marché américain qui continue de bien performer, parce que là aujourd'hui, il performe quand même très nettement plus que les marchés européens en particulier. Donc, ça permettrait au marché français de limiter la casse. Je pense pas qu'on puisse avoir une surperformance du marché français. Parce qu'en fait, pendant quelques temps, le temps que les messages politiques et les messages économiques du RN en particulier viennent calmer le marché, on va avoir une défiance pendant toute la campagne. Donc, pendant cette période-là, rien n'est vraiment exclu. Donc, on pourrait avoir un retour au calme par les marchés internationaux, mais encore une fois, la campagne électorale peut nous réserver encore bien des surprises. Hein. Si on avait pensé qu'on aurait une semaine comme on a eu cette semaine, je pense pas grand monde l'avait anticipé quand même.
Alain, il y a une phrase que vous venez de prononcer qui me fait légèrement flipper, c'est un message fort du RN calmerait les marchés. Bon, mais c'est au milieu du contexte.
Hein. Voilà. On en est là. Mais, bah oui, ouais, c'est la réalité de ce qu'on vit en ce moment. Hein.
Bah, alors, on va regarder avec les échéances de temps, parce que ça, c'est important, et c'est le timing qui fait tout sur les marchés. Si on se positionne après le 8 juillet, qu'est-ce qui se passe?
Alors, je vais dire, il y a deux situations. On imagine, la première situation, c'est une majorité qui ne serait pas claire. Et là, on se retrouverait avec une situation d'incertitude. Donc, le stress qu'on a en ce moment, bah, on le vivrait tant qu'on n'aurait pas réglé cette problématique de majorité, c'est-à-dire un scénario, je vois pas trop lequel, hein, mais imaginons une discussion de bloc qui arriverait à s'entendre pour gouverner. Et ça, je dirais que c'est pratiquement le pire scénario, mais j'y reviendrai après dans les scénarios de risque.
D'accord. Bon, alors on va prendre une hypothèse, hein, celle d'une majorité nette du Rassemblement National. Qu'est-ce qui se passe là?
C'est la plus probable aujourd'hui quand même. Enfin bon, c'est comme ça. Hein.
J'ai rien dit, hein, vous remarquerez.
mais justement.
Mais bon, non, globalement, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes qui sont levées, c'est ça que vous voulez dire?
C'est ça, en fait, je pense que c'est vraiment, enfin, on le voit en ce moment et on le verrait s'il y avait une période d'incertitude parce qu'il y aurait une majorité incertaine. Une partie des incertitudes serait levée et ça, les marchés préfèrent, c'est-à-dire que bah, au moins les choses sont claires, on sait ce qui va se passer, on peut s'ajuster et chacun prend ses décisions. À ce stade, moi, ce que j'entends, c'est imaginons que le RN est la majorité et on pourrait avoir un scénario, ce que j'appelle à la Meloni. En fait, c'est un schéma dans lequel finalement, au regard des investisseurs, si on regarde ce qui s'est passé en Italie depuis un an, pas beaucoup de changements structurels, alors des ajustements, mais pas grand changement structurel. Ce qui serait, je vais dire, c'est comme ça, hein, c'est un peu le meilleur scénario possible pour les marchés, c'est-à-dire un marché français qui, au fur et à mesure que le gouvernement RN donnerait des gages de sérieux, on verrait un peu la prime de défiance diminuer. Alors, c'est vraiment pas le scénario auquel j'accorde le plus d'importance, le plus de probabilité. Pour moi, c'est un scénario qui est à 20%, et en plus, bon, on se retrouverait hors facteurs sociaux hein, qui peuvent toujours arriver, mais on se retrouverait aussi avec des électeurs RN qui seraient quand même probablement pas satisfaits de ne pas voir les cadeaux promis arriver. Donc on aurait quand même une espèce de frustration électorale couplée avec un scénario économique un peu moins stressant. Bon, mais ce n'est pas le scénario le plus important. Moi, je pense que c'est grosso modo, c'est 20% de ce qui peut se passer sur l'année qui vient.
Bon, alors pour les 80 qui restent, histoire de se donner des perspectives.
Alors, le scénario, alors pour moi, celui-là est le plus probable. Hein, c'est un scénario où le RN tient un certain nombre de promesses, mais qui sont des promesses qui sont quand même globalement très coûteuses. Hein, c'est baisse de TVA sur les carburants, baisse de cotisations sociales pour certaines augmentations, etc. Alors, ça n'envoie pas un très bon signal de sérieux budgétaire dans un contexte financier français qui est quand même déjà pas terrible. Mais je pense que surtout le sujet avec le RN, c'est la politique de remise en cause des traités de libre-échange. Et ça, ça a un effet quand même très négatif à moyen et long terme. Et bien évidemment, il y aura des rétorsions. Bien évidemment, les biens coûteraient plus cher. Et on se retrouverait dans une espèce de... Alors je dis espèce de, c'est pas vraiment ce qui se passerait, mais c'est une sorte de Frexit qui dit pas son nom. Et dans ce schéma, pour moi, on se retrouverait dans un schéma à la Grande-Bretagne, on va dire, de la période 2016 à aujourd'hui. Alors c'est pas dramatique, hein, économiquement ou boursièrement, mais si on regarde, c'est une économie qui sous-performe et une performance des marchés boursiers qui est également sous-performante. Si vous regardez le marché anglais et l'économie anglaise depuis 2016, il n'y a pas eu de craquement, hein, c'était pas ce que certains pensaient que ça serait pire que ça, mais finalement l'économie a résisté et on pourrait se retrouver dans un scénario comme ça. Et pour moi, c'est le scénario le plus probable, c'est-à-dire une espèce de léthargie économique couplée avec des performances économiques boursières qui seraient pas terribles, quoi. Donc c'est grosso modo, c'est quoi, même 60% du scénario qui serait, c'est à ce scénario-là que j'attribue 60%.
Bon, pour les 20%, on imagine un scénario alors totalement noir, dark, horrible. On va passer sur cette hypothèse-là. Comment vous envisagez un tel scénario à la sauce française ?
Alors, pour moi, c'est le scénario à la Liz Truss, en fait. Hein, c'est, grosso modo, c'est 20% du reste. Alors bon, encore une fois, je suis pas en train de dire que on n'est pas à la fin du monde, mais on est quand même sur un scénario qui est quand même assez négatif pour l'économie. Donc, pour rappel, hein, Liz Truss, en quelques jours, elle avait explosé en vol. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait annoncé un programme économique qui tenait pas la route. Et il y a une cascade de faits qui sont arrivés. Et on pourrait avoir quand même quelque chose un peu de ce type-là en France. Ça va se jouer sur le 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là-dessus que ça va vraiment se focaliser. Et pour moi, l'alerte, c'est avec des taux français qui passeraient aux alentours de 4,5%. Alors, ça paraissait farfelu il y a 15 jours, mais à la vitesse où les choses vont, ça peut quand même arriver. Et puis là, on a une mécanique qui se met en place très rapidement, hein, puissance 2 ou 3 par rapport à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire des actions qui perdent en une quinzaine, vingtaine de jours, 15-20%. Alors là, c'est ce qui est embêtant pour la France, hein, c'est qu'on est dans un contexte qui est quand même un peu différent de l'Angleterre. C'est-à-dire l'Angleterre, il décide de changer de Premier ministre, les choses changent très rapidement. En France, on a des institutions qui sont quand même plus solide, enfin plus solide au sens où plus résiliente, on va dire, et donc ça paraît difficile de changer arbitrairement les équipes en place. Donc c'est quand même une problématique qui pourrait générer une crise politique. Donc c'est ça aussi qui fait que la situation pourrait être avec ce que je décris, c'est-à-dire une hausse des taux suivie d'une hausse des actions. Et puis l'autre point après ça, par exemple les Anglais n'avaient pas changé leur Premier ministre, bon, on pourrait se retrouver à terme vers une situation un peu comme ce qu'on a connu en Grèce, hein, en 2008, c'est-à-dire à un moment donné où nos créditeurs nous imposent une purge financière. Et ça, c'est quand même assez dramatique. Hein, je vous invite à regarder ce qui s'était passé en 2008 en Grèce, hein, avec baisse des salaires des fonctionnaires, plafonnement des retraites, etc. Et c'est un scénario de crise économico-politique qui affecte, et on l'a vu en Grèce par exemple, hein, on l'a vu aussi en Italie, quand ça arrive, c'est les plus modestes et les plus âgés qui souffrent. Donc c'est un scénario qui était très très loin il y a quelques semaines, hein, on parlait de ça quand il y avait la dégradation de la note de la dette française. On est très loin de ça aujourd'hui parce que la situation politique a changé. Et c'est un risque qu'on peut avoir aujourd'hui.
Ouais, on va se retrouver avec le FMI qui tape à la porte, quoi, globalement.
Non, mais c'est toujours un risque quand on parle de purge, comme elle ne sera pas appliquée par les gouvernements, mais qu'on a besoin de cet argent pour nos fonctionnaires et puis pour le train de vie de l'État au sens global du terme, il va falloir faire quelque chose. Donc vous voyez, c'est quand même un risque qui est devenu un peu plus prégnant aujourd'hui. Donc à avoir à l'esprit, on peut pas gérer avec le scénario de risque. Mais et puis j'entendais vos intervenants qui disaient effectivement tout à l'heure, il y a quand même des possibilités en ce moment d'investir ailleurs. Je crois qu'il faut regarder une diversification internationale sur la partie devise en franc-suisse et sur la partie internationale avec les actions américaines, voire les actions de certains pays émergents en étant très 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 focus, hein, très très prudent sur ça, mais enfin en tout cas sortir un peu de ce contexte-là pour éviter justement d'être totalement exposé à la situation française.
Bon, mais je crois qu'on va passer un bon week-end tous là. Hein. Merci beaucoup, à petit tous.
Pour réfléchir.
Oui, il faut se préparer à tous les scénarios, effectivement. Oui. Allez, tout de suite, on passe au coach.
Tout pour investir, le coach.
Et notre coach, c'est Alexandre Lenko, fondateur de Tudigo. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, Dan.
Et c'est vrai qu'en cette période un petit peu d'incertitude, il faut un peu évaluer tous les cas de figure, toutes les solutions, toutes les stratégies. Alors, quelle influence déjà sur le private equity peut avoir la dissolution de l'Assemblée nationale et l'incertitude politique qui s'ouvre?
La question, elle peut paraître seconde du premier abord, hein, mais en fait, et c'est vrai, quand on y regarde au plus près, ça, on peut se dire que ça peut avoir des effets négatifs. On peut effectivement, comme on l'a entendu sur la séquence précédente, penser au Brexit, aux impacts du Brexit sur l'économie anglaise, qui, on y reviendra, ont été finalement plus temporaires en effet, hein, que longs. C'est vrai que les marchés financiers, la bourse s'inquiètent, maintenant, moi, ce que j'en pense là-dessus, c'est que finalement, l'impact court terme sur le private equity ne peut pas être si important que ça.
Alors justement, on va peut-être y revenir, on a un peu esquissé le sujet avec Alain Pitous. Quel a été l'impact vraiment du Brexit au Royaume-Uni?
Mais le Brexit, si on prend vraiment l'année du référendum, hein, c'était là qu'on a eu le plus gros impact en 2016, c'est notamment les opérations de LBO, des opérations de rachat de titres par dette, leverage buyout, c'est lorsqu'une entreprise rachète tout ou partie de ses actionnaires.
Sort du marché.
Sort du marché. Et donc, la valeur de cette opération a chuté de près de 50%, passant de 30 milliards à 15 milliards d'euros. Donc, impact immédiat assez important. Pourquoi? Parce que, on le voit là déjà, potentielle hausse des taux d'intérêt. Et donc, en fait, ce type de rachat étant directement impacté, c'est de la dette, en fait, étant directement impacté par les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont plus importants, ça a un impact immédiat sur ces marchés-là. Après, les investissements eux-mêmes en capital risque ont chuté en 2016, de près de 30% à l'époque. Mais finalement, ce qu'on voit depuis, c'est que cet impact, en fait, il a été plus immédiat que long terme. Même si, comme on le disait tout à l'heure, ça a généré une sorte de sous-performance peut-être du Royaume-Uni par rapport à ce que le Royaume-Uni aurait pu faire, parce que le Royaume-Uni était très devant et s'est fait rattraper par la France et l'Allemagne. Il s'est fait rattraper, pas parce qu'il a stagné, parce qu'en fait, juste les autres pays ont peut-être à la fois profité de cette sortie finalement de l'Union Européenne et de tout ce qui va avec en termes d'attrait des investisseurs étrangers, mais ont aussi mis en place, on le reviendra peut-être, avec sous Macron, beaucoup de mesures favorisant l'investissement. En ont profité pour effectivement accélérer dans l'investissement d'un côté, l'investissement en start-up, en PME.
Bon, l'impact durable ou temporaire? Parce qu'on a vu quand même la mise en place de programmes, de vraies initiatives à ce niveau-là, du côté britannique.
Tout à fait, non, mais les partis travaillistes ont bossé. Ouais. Et finalement, lorsqu'on regarde, nous, les récentes réformes, et je pense à celle du député Paul Midi sur les jeunes entreprises innovantes, par exemple, dont le décret est passé le 1er juin, finalement, et qui est en vigueur depuis le 31 décembre 2023. Ce type de mesure visant à donner un incentive aux particuliers qui investissent dans des TPE, des PME, des start-up innovantes, donc de 30 à 50% du montant investi, ça, c'est des idées qui viennent du Royaume-Uni et qui sont en vigueur au Royaume-Uni depuis déjà 10 ans. Et il y a eu beaucoup, effectivement, de travail des partis qui étaient en œuvre pour quand même, effectivement, stimuler l'économie. Le Royaume-Uni ne s'est pas arrêté.
C'est ça qu'il faut retenir. Alors, on va revenir à la France. Il y a énormément de dirigeants d'entreprises, de start-up, de tout l'écosystème private equity, des PME, qui se font légitimement beaucoup de soucis sur leur capacité de financement et leur activité. Quel impact peut avoir cette dissolution et cette incertitude politique qui en découle?
Si je prends justement effectivement les gérants de fonds de private equity, je comprends leur inquiétude. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été impactés là par la hausse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact immédiat, finalement, sur la quantité de capital à déployer disponible, et puis a eu un impact également sur les sorties. Parce que ces sorties, on les finançait en partie par de l'endettement, que ce soit une entreprise qui rachète une autre, ou que cette entreprise, effectivement, réalise une sortie par LBO, donc en rachetant avec de la dette ses propres actions, finalement, c'est impacté directement par une hausse des taux d'intérêt qui fait que le coût de l'argent est plus important. Donc, il faut plus de trésorerie, il faut plus de cash flow pour une entreprise pour pouvoir payer ces échéances-là. Et puis, la dette coûtant plus cher, l'exigence de l'investisseur est plus importante. Et donc, la valeur de sortie demandée est aussi elle-même plus importante,
oui, c'est ça.
Alors que finalement, c'est plus dur de sortir. Enfin, bref, tout ça fait que les sorties sont sont au ralenti. Donc, les gérants de fonds ne liquident pas en ce moment leur participation. Donc, ils ont beaucoup d'argent à rendre à leurs investisseurs qui, du coup, n'ont pas d'argent à leur redonner. Donc, ça, c'est forcément un impact sur notamment les fonds. Après, si on prend le reste, effectivement, de l'économie, et je pense en particulier aux entreprises elles-mêmes, il y a celles qui sont très endettées et pour qui les taux d'intérêt ont un impact très important. Et donc, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est déjà passé en fait suite au Covid, la guerre en Ukraine, enfin toutes ces espèces de crises continues hein, qu'on a depuis deux ans, a eu un impact sur tous les secteurs très fortement dépendants de la dette, à commencer bien sûr par l'immobilier.
Alors, est-ce qu'on peut refaire un point sur tout ce qui avait été décidé par Emmanuel Macron concernant les PME, les TPE, tout cet écosystème-là?
Ouais. Alors moi, voilà, effectivement, je pense que surtout ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2016, depuis 2017, enfin globalement, ça fait maintenant 7 ans hein, que en fait le gouvernement d'Emmanuel Macron a mis en place beaucoup de mesures qui, pour le coup, sont très pro-économie en général. Il y a eu la réforme du code du travail. Alors ça peut ne pas plaire, mais finalement plafonner les indemnités prud'homales, simplifier les procédures de licenciement pour des petites entreprises, hein, je pense en particulier. Alors les grandes, c'est bien sûr, mais les petites, c'est un gros atout parce que ça les rend plus agiles. Et quand on a des crises, quand il faut pouvoir réajuster, c'est important de pouvoir assez rapidement pivoter pour pas mettre en danger l'intégralité de l'entreprise, l'intégralité de l'activité. Il y a eu ça, il y a eu la flat tax. La flat tax, ça a été quand même important aussi pour attirer et surtout garder des investisseurs, parce que le fait d'avoir un prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital, notamment, bah, naturellement, ça encourage l'investissement de ceux qui étaient sur des barèmes d'imposition plus importants, parce que finalement, c'est maximum 30%. Voilà, donc ça c'est important. Vous avez eu le dispositif de jeunes entreprises innovantes, la première version de 2018, qui a amené quand même des allègements de cotisations sociales et de charges patronales. Ça c'est pour des entreprises innovantes. Pareil du côté de la sécurité sociale sur les heures supplémentaires. Tout ça c'est des mesures qui quand même simplifient et allègent, je pense, la charge mentale et puis économique du chef d'entreprise. Et ça c'est important si on veut stimuler une économie où les entreprises se créent, se développent, embauchent. Voilà. Il y en a d'autres.
Un dernier mot, c'est vrai qu'en attendant le programme économique du Front Populaire hein, qu'on attend, parce que là pour l'instant c'est vraiment le flou, on a vu que le Rassemblement National avait fait quelques propositions à ce niveau-là, qu'est-ce que vous retenez?
Moi je retiens, alors évidemment ce Frexit déguisé, bien sûr.
Oui, on en parlait avec un
plan
Pitos,
en parlait, voilà exactement. Donc ça, je pense que c'est peut-être le... C'est potentiellement le plus dommageable parce que vous avez des entreprises qui profitent du marché européen pour exporter. Après, si on prend la masse plutôt du côté des petites entreprises, pour certaines, ça peut aussi leur être bénéfique parce que un peu comme moi, ça me rappelle en fait ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours été extrêmement protectionnistes et d'ailleurs, ont toujours été. Et est-ce que finalement, quelle est la performance économique des Américains? Ils ont toujours été devant, en fait.
Donc, ils nous ont toujours tirés. Hein,
ils nous ont toujours tirés parce qu'en fait, eux, ils protègent leur marché et puis ensuite, ils envoient leurs marchandises à l'étranger.
C'est ça.
Ils favorisent leur marché national. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je pense que c'est dur de tirer un trait, mais je suis plus mitigé, je dirais, sur le fait que ça sera une catastrophe. Tout dépend effectivement des détails. Le diable est dans les détails, en fait. Après, vous avez des sujets sur la TVA. Baisser la TVA sur les produits de base, pour pas mal d'entreprises, hein, et notamment les petites, c'est quand même pas mal si ça va stimuler la consommation. Parce que si vous baissez la TVA de 5, 10%, 20% selon les produits, derrière, le consommateur particulier qui ne récupère pas la TVA va être amené potentiellement à plus consommer. Alors évidemment, il faudra trouver la recette ailleurs, mais impact direct et immédiat sur pas mal de TPE-PME, il peut être positif. Voilà. Et puis après, exonération des cotisations sociales sur les augmentations salariales, pour certains, dans certaines limites, ça c'est pareil, c'est quand même intéressant parce que vous avez aujourd'hui un environnement économique avec de l'inflation qui fait que de toute façon il faut augmenter les salaires, le pouvoir d'achat il a diminué, donc les salariés vous réclament des salaires plus importants. En tant que chef d'entreprise, vous avez besoin d'avoir une capacité à pouvoir faire évoluer les bons et retenir vos talents, parce que c'est un marché où finalement c'est pas si difficile, c'est difficile d'embaucher en réalité, hein. On est en crise, mais ça reste compliqué de trouver les meilleurs collaborateurs. pouvoir effectivement payer plus ses collaborateurs parce qu'on aura un coût des charges qui est moins important, ça peut aussi être positif.
Bon, on va examiner tout ça. De toute manière, tout est nature à changement hein, dans les trois semaines à venir. Donc on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup Alexandre Lenko, fondateur de Tudigo. Merci d'avoir été avec nous et d'être régulièrement avec nous hein, au sein de cette émission. Allez, restez avec nous puisque bien entendu, au milieu de la tourmente, on va vous servir de boussole. Et évidemment, gros chapitre immobilier à suivre. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderi.
Tout pour investir, deuxième heure, soyez les bienvenus. Alors évidemment, une deuxième heure qui sera très largement consacrée à l'immobilier. On sera avec Marie Cœur de Roy, ainsi que Olivier Marin du Figaro, hein, qui va nous rejoindre, bien entendu. Renaud Cormier de TCIS. Donc on va un peu brosser les perspectives du marché immobilier en fonction de ce contexte politique quand même. Très très instable, très incertain. Évidemment, on va reparler bourse. On rejoindra Aude Kersulec dans quelques instants à Euronext Paris. On parlera aussi crypto, parce qu'au milieu de tout ça, il y a eu énormément d'actualités du côté des cryptos. Et on sera évidemment avec Amaury de Tonquédec en fin d'émission pour brasser un petit peu l'ensemble de cette actualité qui est quand même assez riche. Alors, bien sûr, vous restez avec nous tout au long de l'émission. Vous pouvez nous joindre par mail pour poser vos questions. Je vous rappelle, direct@bfmbusiness.fr, sur LinkedIn, sur la boîte privée de Lorraine Goumeau. Et puis par SMS aussi. SMS au 7 32 16, vous mettez le mot-clé business. Aude Kersulec, on a l'air de vouloir limiter un petit peu la casse hein, du côté du CAC 40. C'est vrai qu'on teste les supports sous les 7600. Maintenant voilà, 1,5% de baisse, on n'a pas l'air de vouloir aller plus bas. Enfin bon, rien n'est moins sûr. Hein. Le marché reste éminemment volatile.
Oui, c'est vrai qu'on s'est arrêté pour le moment sur les -1,5-1,6% de baisse. On avait fait quand même pire hier, puisqu'on a clôturé à -2%. Et là, on a enfoncé hein, depuis ce matin les 7600 points, 7590. Et en Europe, on a quand même des performances, des indices bien différentes. Alors, ça baisse beaucoup à Paris. C'est évidemment l'une de celles qui baisse le plus. Ça baisse très modérément du côté de Londres et puis assez moyennement hein, du côté de Francfort, -0,5% ou de l'Eurostoxx 50, -0,94%. Mais à l'intérieur de l'indice parisien, en revanche, c'est quand même très, très rouge. La banque qui continue de prendre cher, notamment la Société Générale, qui est encore la pire performance de l'indice, -4%, 22,04 €. Et puis les autres ne sont pas très bien placés non plus. BNP ou Crédit Agricole qui perdent de nouveau plus de 3%. Et puis on a aussi Packering qui continue encore de un peu et finalement une des seules hausses de l'indice. Tout à l'heure c'était Dassault Systèmes, maintenant c'est Sanofi, +0,3%, mais c'est quand même très changeant cette place en ce moment à la Bourse de Paris. Et sur l'indice large, la seule exception du jour, c'est Atos qui monte franchement après l'actualité du matin sur l'entreprise Atos qui est l'offre qu'a refait l'État sur les activités stratégiques d'Atos, notamment les activités de BDS d'une valeur de 700 millions d'euros, et bien le titre qui monte de 16%, 89 centimes. C'est en revanche une mauvaise nouvelle, une déception pour Solutions 30 qui va sortir de l'indice large. C'est Euronext qui en a décidé ainsi dans sa révision trimestrielle des indices et sa recomposition, et c'est pour le moment sanctionné par les investisseurs puisque finalement elle sera plus aussi visible comme valeur, plus aussi liquide. Voilà donc pour les actions. Un point sur l'obligataire, parce que forcément ça nous occupe pas mal. On continue de baisser sur le 10 ans français, c'est quand même à signaler. On est redescendu à 3,11%. On a baissé de 6 points de base, mais le taux 10 ans allemand lui aussi se détend bien. On est à 2,39%. Et c'est vrai que c'est dans un mouvement de détente qu'on a quand même depuis hier du côté des États-Unis aussi. à la consommation et d'inflation à la production. On était pas mal descendu. Ça avait favorisé la détente beaucoup plus donc sur les taux allemands et que sur les taux français. Hein. C'est pour ça qu'on avait parlé du stress de la dette parce que le spread, lui, du coup, s'était agrandi. Mais là, ça tend à se stabiliser, en tout cas autour de 70 points de base pour le stress entre le taux allemand et le taux français. Et on regarde du côté des échanges l'euro qui, ça y est, a cassé là aussi les 1,07, 1,0686. Donc l'euro qui continue de s'affaiblir après cette semaine très mouvementée hein, sur le plan politique. Le bilan hebdomadaire, il sera quand même très mauvais cette semaine. On sera au-dessus des 4% de baisse sur l'indice parisien, ce qui fait que on a bien égrené notre performance du début de l'année depuis pour le CAC 40, puisqu'on gagnerait maintenant seulement 1,5% depuis le 1er janvier, Antoine.
Oui, au dépit, c'est un gag récurrent hein, dans la maison, mais vous direz à tes souhaits à Hervé, qui doit être derrière vous, qu'on a bien entendu. C'est la période des pollens, hein, évidemment. C'est compliqué. Bon, allez, on passe à votre histoire du jour.
Tout pour investir sur BFM Business.
Ben oui, parce qu'au milieu de tout ça, non mais on parlait des cryptos avec Améry de Tonquédec qui nous en parlera en fin d'heure. Il y a quand même notre agitation politique domestique qui nous cache des nouvelles quand même importantes. Il y a Apple qui redevient première entreprise mondiale en matière de capitalisation. Ça, faut pas l'oublier, Aude.
Oui, c'est une course, de toute façon, qui ne finit jamais, hein, celle des capitalisations boursières. Apple, qui est redevenue roi de Wall Street, roi du monde, en fait, hein, la première capitalisation boursière mondiale, 3290 milliards de dollars devant Microsoft, qui l'avait dépassé en début d'année, qui vaut maintenant 3280 milliards de dollars. Autrement dit, une poignée de milliards entre les deux entreprises. C'est pas grand-chose hein, quand on parle de capitalisation, même si ça peut forcément impressionné. Alors c'est quand même grâce à une magnifique semaine de la part d'Apple qui a eu sa conférence de développeurs, qui a parlé d'IA et qui a même réussi à transformer l'intelligence artificielle en intelligence Apple. Donc ça a forcément beaucoup plus au marché ces annonces. On a pris quand même quasiment 8% sur le titre Apple depuis lundi. Et d'ailleurs c'est vrai que début janvier, quand Apple avait perdu sa place au profit de Microsoft, c'est justement parce que Microsoft avait fait à ce moment-là des annonces déjà sur l'IA, comme quoi c'est toujours l'IA qui drive les marchés. Le challenger justement qui est très fort dans l'IA, il est plus très loin, Nvidia, qui avait été un temps un deuxième d'ailleurs capitalisation boursière mondiale, qui a passé hein, lui aussi le cap des 3000 milliards de market cap. Il est à 3219 milliards, donc on devrait lui aussi le revoir dans cette course au géant d'ici allez, quelques séances peut-être. En tout cas, il est dans la cour des très très grands. Et puis hein, pour rappel, mais quand on parle de capitalisation boursière, donc market cap en anglais, on parle bien sûr pas juste du prix de l'action, mais c'est évidemment le prix de l'action fois le nombre de titres en circulation. Et c'est comme ça qu'on estime le poids d'une entreprise sur les marchés et qu'on attend ces sommes mirobolantes. Hein.
Merci Aude, effectivement on va continuer à suivre ce match des grosses capitalisations qui effectivement ne tournent qu'autour de l'IA. Allez, on passe au marché immobilier, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'incertitudes, on en parle depuis le début de cette émission. On va étudier un petit peu les conséquences possibles, potentielles de toute cette période sur le marché immobilier.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Allez, l'immobilier est dans tout pour investir. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Marie Cœur de Roy, bonjour.
Bonjour Antoine et bonjour à tous.
Et bonjour à tous, puisque nous sommes avec Olivier Marin du Figaro et Renaud Cormier, directeur général de Tezeis, président aussi de l'Association française de l'immobilier locatif. Alors évidemment, en période d'incertitude maximale, on a vu que... je regarde avec mon petit prisme boursier habituel, mais on a vu le secteur immobilier, le secteur de la construction se prendre un pain, mais absolument monumental.
Ça fait longtemps hein, quand même.
Ouais, mais là, particulièrement évidemment, depuis le début de la semaine, parce que en plus, on a mis au panier toutes les réformes qui étaient en cours hein, concernant le logement.
Enfin, on verra avec Renault que les réformes étaient peut-être pas forcément les bonnes non plus.
Et puis en plus, c'est comme tout, c'est oui, en fait, on verra. Et puis c'était pas sûr. Et puis bon, où on en est ?
Le seul élément tangible, et vous en parlez assez régulièrement, Antoine, c'est l'OAT. Donc c'est la dette française et les taux d'intérêt de la dette française. Alors c'est monté ponctuellement dans la semaine autour de 3,20, 3,25 de mémoire. C'est redescendu un peu aujourd'hui, mais est-ce que, et c'est la principale question que j'ai envie de poser à nos invités, est-ce que ces tensions sur le niveau de la dette française peuvent avoir un impact, oui ou non, à moyen, à long terme, à court terme, sur les taux d'intérêt de nos crédits immobiliers ?
Oui, bonjour déjà, mais effectivement, l'immobilier a besoin de confiance. Et c'est vrai qu'on sait que dans des périodes troublées, où il n'y a pas de visibilité, pas de projection, c'est difficile. Je ne pense pas qu'il y aura vraiment de changement pour ceux qui ont un projet immobilier, ceux qui ont la capacité financière. Par contre, effectivement, sur les crédits, et notamment pour les primo-accédants revenus modestes, pour certains investisseurs, on va regarder à la loupe, effectivement, cette évolution des taux d'intérêt. Si on reprend dans le contexte, il faut quand même en dire un mot. C'est vrai qu'on sort d'une période où on est passé, en l'espace d'à peine 2 ans, on est passé de 1 à 4%. Et puis, depuis quelques mois, une éclaircie. Ouais. Des taux d'intérêt qui ont baissé progressivement. Et puis, des banques de plus en plus prêteuses, où le crédit immobilier, le prêt immobilier est redevenu un produit d'appel. Et puis là, effectivement, la donne est en train de changer. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'il va y avoir un impact, effectivement, des OAT ? Est-ce que y aura-t-il une répercussion sur les taux et donc sur l'attitude des banques ? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il faut faire preuve quand même un peu d'humilité. Mais effectivement, on peut se poser la question. Et la donne va complètement changer. Tout dépendra aussi de la couleur politique. Mais
bien sûr. Mais on a, coutume de dire que quand on regarde l'OAT 10 ans, traditionnellement, on rajoute 0,8 un point, entre 0,8 et 1 point, et que ça nous donne le taux d'intérêt sur 20 ans pour les crédits immobiliers. Donc si je regarde là, on devrait être autour de 4%. On ne l'est plus. On est plutôt autour de 3,7, 3,8 aujourd'hui.
3,75%.
Oui. Donc je me retourne vers Renaud. Est-ce que finalement, le premier impact qu'on va plutôt avoir, c'est l'attitude des gens ? C'est l'attitude des acheteurs. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un attentisme un peu brutal, dont le marché n'a peut-être pas forcément besoin, compte tenu de cette incertitude politique ?
Je dirais un renforcement de l'attentisme, puisque la crise immobilière dans laquelle nous sommes, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, c'est notamment une crise de confiance des ménages dans l'investissement immobilier. Donc, on avait déjà une forme d'attentisme, donc c'est sûr que
ce qui se passe aujourd'hui... Vous avez eu des coups de fil, vous, Renaud, vous avez eu des gens qui vous ont appelé là depuis dimanche en vous disant on va peut-être attendre.
Alors moi non, les conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels nous travaillons sûrement, ce qui est sûr c'est que à chaque grande incertitude, grande crise, on constate un attentisme des investisseurs en général, pas seulement dans l'immobilier. J'ai envie de dire là, la période, en tout cas les 3 prochaines semaines, c'est une période assez courte. Donc en fonction de l'issue de ces 3 semaines, ça aura plus ou moins d'impact. Ce qui est sûr c'est qu'au mois de juin, on ne devrait pas assister à un rebond spectaculaire de l'activité, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien.
Antoine le disait, il y a cette petite parenthèse qui pourra durer peut-être 3 semaines, peut-être plusieurs mois, voire plus. Il y a quand même un autre sujet autour des textes législatifs qui ne seront pas déposés. Je pense notamment d'ailleurs à la portabilité du prêt. Je salue le député Renaissance qui portait cette idée et qui devait la déposer en octobre de mémoire, mais bon, a priori, voilà. Non, il y en a d'autres, des projets de loi qui sont
Important parce qu'il y a vraiment un coup d'arrêt là-dessus sur les projets de loi. Effectivement, on va passer où c'est complètement abandonné ou alors c'est suspendu. Après, tout dépend aussi comment on se positionne et le degré ou d'optimisme ou de pessimisme qu'on peut avoir. Le projet de loi sur le rééquilibrage du marché locatif, il est arrêté. Hein, c'est le fameux projet qui propose d'aligner sur la même fiscalité la location en nu et en meublé, donc encadrer les meublés de tourisme type Airbnb pour favoriser le logement permanent. C'était un peu la philosophie en fait de ce projet de loi. On sait que la fiscalité est moins favorable, il y a le DPE, les obligations, ça ne concerne pas le meublé en tourisme. Tout ça, en fait, va rester en l'état. Donc ça, c'est aussi une notion à avoir dans la tête, à la fois pour des investisseurs, je disais, après tout, c'est plutôt bien Airbnb, il ne faut pas s'aligner. Et puis d'autres, notamment, on pense aux jeunes, aux étudiants, pour se loger. On voit tous les dégâts, ce que ça fait un peu partout dans de nombreux territoires et des villes, quand on n'a pas d'accès au logement et une location, on va dire, classique.
Donc ça y est, c'est bon.
Ça, c'est arrêté. projet de loi logement abordable en discussion à l'Assemblée qui a été présenté là au mois de mai, il est arrêté également. Alors c'était permettre d'avoir une meilleure maîtrise du foncier par les communes, c'est arrêté. Renforcer le pouvoir des maires, c'est arrêté. Simplifier, accélérer les procédures d'urbanisme, on en parle souvent ici. Les recours, limiter les recours, que ça aille quand même plus vite dans tout ce qui est juridique, c'est arrêté. Encourager la densification douce dans les zones pavillonnaires sous le contrôle des maires, c'est arrêté. C'est en fait la fameuse idée de dire, puisqu'on limite l'étalement urbain, il y a peut-être des zones où il y a des gens qui ont une maison avec un énorme jardin, on pourrait imaginer de construire une deuxième habitation aussi, ça favoriserait pour des accédants le fait de pouvoir y aller, ça c'est arrêté. Développer le logement intermédiaire, c'est arrêté. Permettre aux bailleurs sociaux de doubler leur production de logement intermédiaire, c'est arrêté. Au total, 14 mesures qui sont arrêtées.
Oui, et le coup de canif dans la loi SRU aussi.
Voilà, alors voilà, dont ce qui a suscité la polémique concernant l'assouplissement de la loi SRU, justement, plus d'obligation des 25%, intégrer le logement intermédiaire, encourager la mobilité, aussi en fonction des revenus, du patrimoine des locataires. En fait, ça, c'est arrêté. Donc, ça va être, au final, revu, corrigé ou complètement abandonné. On aura des indications, en fait, dans quelques semaines. C'est arrêté. Ce qui est passé, c'est quand même pas anodin, la mesure sur les propriétés dégradées, le fait d'avoir la majorité pour engager des travaux, ça s'est passé, c'est bon. Les appartements, on en parlait souvent ici, d'une surface de moins de 40 mètres carrés, qui était classée G, qui devait au 1er janvier 2025 être interdit de location. Finalement, on a dit non, allez, ce sera 2028 parce qu'on n'est pas prêt, puis on a besoin justement de ces appartements pour notamment loger les jeunes. Eh bien ça, c'est confirmé. Ce sera bien décalé en 2028. Et tout ce qui est autour de du calendrier, parce que beaucoup se posent des questions sur la rénovation énergétique, ces obligations pour le DPE, F et G, pour l'instant, le calendrier, il est maintenu. Voilà où on en est pour l'instant.
Renaud, je vous voyais trépigner en même temps qu'Olivier nous refaisait surtout le film du projet de loi logement abordable. Je crois que c'est celui-ci qui vous intéressait et qui vous intéresse encore le plus.
Oui, alors je trépigne souvent, mais non, en l'occurrence, c'est même plus grave que ce que vous évoquez, puisque au-delà du fait que tout ce qui était déjà engagé va être soit gelé, soit abandonné, hein, et si on parle
suspendu.
Ou suspendu. Alors, on parle du projet de loi logement. Nous avions, nous, un amendement qui devait être présenté en séance publique le 17 juin. Il ne le sera pas, puisque le Sénat est à l'arrêt en attendant les élections. Non, au-delà de ça, le problème, c'est qu'il y avait tout un travail de fond qui a été fait depuis un certain nombre de mois pour essayer d'éclairer les gens qui nous gouvernent sur les raisons de la crise, sur les solutions possibles. On faisait des progrès. On attendait un rapport de la commission qui avait été sollicité à l'époque par Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, sur la simplification de la fiscalité locative, avec une rapporteuse qui est Mme Anaïck Lemeur. Le rapport, semble-t-il, on avait demandé à ce qu'il soit repoussé après les européennes. Résultat des courses, il sortira peut-être jamais. La Cour des comptes travaille sur un rapport pour faire le diagnostic et le bilan de la loi Pinel. J'ai été auditionné il y a presque un an, hein, puisque je pense que mon audition, c'était courant juillet 2023. Le rapport devait sortir en novembre. Et puis, je pense que comme ce qui est dedans ne plaît pas forcément à Bercy.
Il y a des gens qui m'ont murmuré, je le dis, hein, qui m'ont murmuré qu'en plus, si ce rapport aurait dû être publié, il aurait finalement été relativement positif à l'égard de la loi.
Nous avons les mêmes infos et je pense que c'est aussi pour ça que sa sortie ne cesse d'être repoussée. Je pense qu'il finira par sortir.
La Cour des comptes qui a quand même tiré pendant longtemps un boulet rouge hein, sur les dispositifs d'aide à l'investissement.
Qui a fait un rapport qui était un torchon en 2019, qui n'était ni fait ni à faire, sur la base de l'interview de 11 maires anti-logement. Là, cette fois-ci, c'était un vrai travail de fond avec une audition d'énormément de professionnels. Ils ont auditionné 1000 investisseurs, 1000 locataires, ils ont visité une cinquantaine de résidences et effectivement, on leur avait demandé là aussi que le rapport ne sorte pas avant les européennes. Est-ce qu'il sortira? Je pense que oui. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir la version originale, puisqu'on le sait tous, les rapports de la Cour des comptes font l'objet de tractations sans fin et de relectures pour que ce qui sorte soit dans l'épure de ce qui est souhaité.
Mais bon, du coup, c'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle que celle qu'on a appelée la loi Kasbarian, mais qui est le projet de loi logement abordable. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas que finalement on n'aille pas au bout, que ce soit en suspens, que ça puisse être sujet à modification?
Non, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque plus la crise dure, plus l'ornière se creuse, plus il sera difficile d'en sortir.
Mais vous croyez sincèrement que ça aurait pu changer les choses?
Alors, ça ne les aurait pas aggravés, ce qui est déjà une première chose. Et
oui, parce
le cabinet
de Caspari
a été ouvert à des amendements.
Je
ne
sais pas la demande là-dessus.
Comment?
C'était plutôt sur l'offre avant tout.
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas vraiment la demande.
Alors, c'était nécessaire, mais insuffisant. Nous sommes tous d'accord. Simplement, tout ce qui pouvait concourir à faire qu'on n'aggrave pas trop la situation était déjà bon à prendre.
Juste d'un mot, parce qu'il nous reste 3 minutes avant la pause. Vu qu'on est en train de parler de l'état du marché et de ce qui est nécessaire à faire, bah, qu'on le fasse à l'instant T, Olivier, on en est où? Volume de vente, prix, etc. Qu'on mesure un tout petit peu l'état actuel des choses.
Oui, alors, bon, on est à la mi-temps de cette année, hein, 2024. Et justement, hier, je voyais Loïc Quentin, qui est le président de la FNAIM, qui a sorti, en fait, son baromètre. Et je lui demandais, en fait, voilà, à l'occasion un peu des JO, comment vous pourriez qualifier un peu ce marché s'il y avait une connotation un peu sportive, à bout de souffle, au ralenti, en perte de vitesse. Et il m'a dit, on est dans les vestiaires. Dans les vestiaires. C'est-à-dire qu'on est dans les vestiaires, on se prépare, on s'échauffe, et on attend que ça redémarre, et on pense que ça devrait redémarrer en 2025. Si, voilà.
Avec une énorme incertitude.
Là, il parle de l'ancien, dans le 9, de la piscine du 1er mai steeple.
Alors, côté transactions, toutes les projections indiquent qu'on sera autour de 800 000 à 850 000 transactions cette année. Alors, on est loin des records à 1 200 000 il y a 2 ou 3 ans, mais il n'y a pas vraiment d'effondrement. On achète des maisons, des appartements. On a connu des années, notamment 2009, où on était à 600 000. Hein, ouais. Mais c'est le reflet, en fait, des conditions de crédit, des difficultés économiques, de la baisse du pouvoir d'achat. Côté prix, alors la baisse dans l'ancien, elle continue, elle se poursuit. Moyenne nationale, c'est un indicateur, on est à moins 3,8% et avec des projections à moins 5, voire moins 7% d'ici la fin de l'année. Alors, chaque bien est unique, évidemment. Normalement, un bien relativement bien situé, près des transports et tout ça, avec ce qu'on appelle les biens zéro défaut, ça ne devrait pas bouger. C'est tout le reste, en fait. C'est tout le reste, ceux qui sont où on a besoin vraiment de travaux, mal situés, entre guillemets, qui vont perdre de la valeur et sans doute beaucoup plus. Une tendance, c'est que certaines villes faisaient de la résistance. Au niveau des prix, on parlait de stations balnéaires, ça bouge pas et tout ça.
Nice.
Oui, on parlait de Nice. En fait, non. Finalement, ça commence à baisser un petit peu. Et puis, il y a une confirmation, c'est Paris. Alors là, comme nous l'indiquaient les notaires, on a vraiment... Mais on était monté. Les prix restent très élevés. On est à 9 400 euros par mètre carré. En moyenne, la baisse de prix sur un an, on est quand même à moins 7, voire moins 8% sur une année.
Certains commencent même à dire que c'est le début de la fin de la baisse.
C'est pas anodin,
baisse, hein,
et avec toujours des fortes disparités au sein des arrondissements, puisque et des quartiers, on passe de 14 000 euros du mètre carré en moyenne dans le centre de Paris, et on est autour des 8 000 euros dans le nord-est parisien.
Bienvenue chez moi.
18, 19, 20e arrondissement. Voilà, on a des prix qui reculent, en tout cas dans les grandes villes, et puis un peu partout, ça s'étend progressivement, mais il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas d'effondrement pour l'instant.
Renaud, vous parliez du neuf, on y reviendra plus longuement dans la deuxième partie, mais d'un mot, ça vous donne envie, ça, non ?
Ah bah, oui, si ça n'était que cela dans le neuf, ce serait bien. Dans le neuf, c'est l'inverse, en fait. Il n'y a pas de baisse des prix pour le moment.
Il y a des coins
compressés. Puisqu'il y a une crise de l'offre qui a précédé la crise de la demande. Donc, on a une demande qui est totalement atone et une offre qui est insuffisante. Du coup, des prix qui ne baissent pas. Et dans l'ancien, c'est mécanique. Je ne suis pas prof de macroéconomie, mais à partir du moment où le pouvoir d'achat, du fait de la hausse des taux, a baissé de 15% dans l'immobilier, tant que les prix ne se seront pas ajustés de l'ordre de 15% ou que les taux d'intérêt ne seront pas redescendus, il n'y a pas de raison que les prix ne tangentent pas vers ce que moins 15% accumulé depuis le début de la crise.
En plus, il y a toujours de la tension sur les coûts de production, j'imagine.
Ah bah, dans le neuf, c'est le problème. Les prix ne baissent pas parce que là aussi, c'est de la macro. Il n'y a pas d'offre. À partir du moment où il n'y a pas d'offre et que les promoteurs n'ont pas de levier, alors les leviers qu'ils ont eus, c'est des leviers de trésorerie. Ils ont massivement vendu, sans doute à perte en termes de résultats, des institutionnels, mais ça leur a permis de récupérer de la trésorerie. Simplement, aujourd'hui, de lancer des opérations à perte, ils ne le feront pas. La demande étant très faible, en plus, ils n'ont aucune marge de manœuvre dans leurs opérations, donc ils ne peuvent même pas prendre le risque, étant donné leur fragilité financière, de monter des opérations un peu agressives. Parce que dès l'instant où la commercialisation va être plus lente que prévu, accessoirement, dorénavant, notamment les coûts de portage qui étaient à la marge lorsque les taux étaient très bas, deviennent significatifs. Je pense que les banques leur mettent aussi de plus en plus de pression, parce que tout le monde a parfaitement conscience que, mais il y aura des morts dans la promotion immobilière.
Allez, on se retrouve dans la deuxième partie de ce spécial immobilier, hein, au sein de Tout pour investir. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Les experts de l'IMO, deuxième partie dans ce tout pour investir, toujours avec Marie-Cœur de Roy, Renaud Cormier, président de l'Association française de l'immobilier locatif et directeur général de TCIS, Olivier Marin, rédacteur en chef propriété du Figaro. Bah, on reprend ce débat, on voulait parler de la location quand même.
Bah, le marché locatif, on parlait du logement neuf avant la pause. Bon, le marché locatif, en particulier en plus dans le neuf, je ne sais pas si on a un petit décompte pour le Pinel, mais par exemple, au revoir, dispositif.
Le Pinel, c'est fini. Il faut dire que c'est fini. Il s'arrête au 31 décembre de cette année. En moyenne, aujourd'hui, avec les délais d'obtention des financements, un investisseur, il lui faut 4, 5, 6 mois pour...
Là, c'est... Alors, attendez, je vous interromps, Renaud. Ça veut dire que là, si on a un auditeur ou un téléspectateur qui avait l'intention d'ici la fin de l'année...
Fin juillet,
oui, c'est fini.
Ou alors, il a un très bon dossier où il peut investir en cash, ce qui est quand même plutôt l'exception. Mais si il souhaite avoir recours à un financement, ce qui est plutôt une bonne idée lorsqu'on fait de l'investissement locatif, il faut qu'il le fasse d'ici à fin juillet pour passer son acte avant le 31 décembre. On a traditionnellement, lorsqu'un dispositif s'arrête, une période de 3 mois qui nous est octroyée. Étant donné l'instabilité politique ambiante, je ne suis pas certain que ce sera la priorité des mois qui viennent de traiter ce genre de détail administratif qui a son importance, mais qui, pour les gens qui nous gouvernent, je pense, sera de second ou de troisième rang.
Après, tout dépend, justement. Enfin, je ne veux pas repartir dans forcément ça dépend, ça dépasse, mais en fonction des élections et du résultat, on sait qu'il y a pas mal de députés, notamment à droite, hein, qui étaient pour que le Pinel soit prolongé, qui étaient pour qu'il existe un dispositif d'aide à l'investissement locatif.
Alors, je pense que le meilleur espoir pour le marché, c'est surtout que les sénateurs ont une conscience aiguë de la crise du logement, puisqu'ils sont en prise avec le terrain, ils sont élus par les maires, et ils me disaient avoir énormément de remontées. Il y a de ça déjà 6 mois, on m'expliquait que le sujet du logement, de la crise du logement, de la difficulté notamment à louer, remontait aussi souvent dans les bannettes au Sénat que les problématiques qui avaient donné les gilets jaunes 12 mois avant. Donc il faisait exactement le parallèle. Et là, le Sénat, pour le coup, ça risque d'être le seul facteur, je ne veux pas anti-faire de la fiction,
de stabilité
politique. Et donc je pense que les sénateurs qui d'ailleurs étaient en train d'étudier le projet de loi Kasparian vont sans doute être ceux qui vont porter le sujet.
Olivier, l'investissement locatif et donc l'offre locative, aujourd'hui, on en est où ? Est-ce que la crise est aussi vive que ces derniers mois ?
Elle est énorme. Il y a quelques chiffres, et je le fais régulièrement, hein, pour voir un petit peu déjà, pour essayer de trouver une location classique.
Je regardais Olivier Marin cherche à se loger, je répète.
Sur le site Figaro Immobilier à Paris hier, bien à la vente, 14 700, bien à la vente. Bien location dans le privé, 3 700, 4 fois moins. Je regarde sur Se Loger, pour ne pas dire c'est le Figaro.
Je vous interromps, Olivier, oui. On parle de location vide, location meublée,
oui,
les deux.
Non, alors justement, tout ce qui est hors Airbnb et tout ce qui est le meublé touristique, pour bien voir la bascule qu'il y a pu avoir. Sur Se Loger, à Paris, bien à la vente, 21 000, bien en location, 5 900. Je regarde à Rennes, 1500 annonces de bien à la vente, location, 96. Se loger, pareil, bien à la vente à Rennes, un peu plus de 2300, location 370, 7 fois moins de location traditionnelle dans le privé. Une part qui a basculé de plus en plus importante sur Airbnb, d'où les difficultés et le fait que le projet de loi, en fait, soit là aussi, qui prévoyait l'alignement de revenir, ouais. soit remis en cause. Ça ne va pas arranger les choses et c'est vraiment une grande difficulté. Et voilà, en tout cas, il y a une pénurie qui est absolument énorme.
Dans le neuf, enfin dans l'ancien, on a beaucoup dit que ce qui refroidissait les potentiels investisseurs, c'était évidemment la fiscalité, mais aussi les DPE avec l'interdiction à venir des passoires thermiques, etc. Le fait que les prix soient élevés, qu'on soit beaucoup plus de locataires à rester en place. Qu'est-ce qui se passe dans le neuf ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un intérêt à faire de l'investissement locatif dans le neuf, compte tenu, on le disait, de la disparition du dispositif Pinel ?
Alors, dans les conditions de pression et de température d'aujourd'hui, de prix, de rendement, de taux d'intérêt, c'est encore intéressant pour des particuliers qui peuvent avoir accès à un financement assez facilement. Là où aujourd'hui, il y a plus de leviers pour un investisseur particulier, c'est dans l'ancien rénové, puisque c'est un marché qui est en train de se développer, mais qui est une niche. Je rappelle que la Pinel, ses meilleures années, ou le logement intermédiaire neuf, d'une manière générale, ses meilleures années, on parlait de 50, 55, 60, je crois qu'on est monté à 67 000 logements. L'ancien rénové, aujourd'hui, lorsqu'on rénove des des immeubles entiers, attention, hein, puisque quand on rénove un appartement dans un immeuble qui lui-même n'est pas rénové, c'est peut-être un peu plus compliqué, et on le trace moins bien, c'était de l'ordre de 2000 logements l'année dernière, dans le cadre d'un dispositif
de Normandie. Le fameux de Normandie. On salue Franck Vigneault, d'ailleurs, du laboratoire de l'immobilier, qui doit forcément nous écouter.
Et qui est le spécialiste mondial de la de Normandie.
Et qui est complètement dingue, voilà, il est devenu dingue du de Normandie, c'est-à-dire que, voilà.
Aujourd'hui, on retrouve des conditions pour des investisseurs qui sont extrêmement favorables, puisque vous êtes sur des cœurs de ville, alors plus petites que les zones tendues sur lesquelles la Pinel était possible. Vous êtes sur des prix d'achat de foncier qui sont faibles, parce qu'on est sur des marchés qui sont, pour le coup, sur des logements qui sont des passoires thermiques, on est sur des marchés qui sont plutôt
décotés,
ouais. Sur lesquels les promoteurs ne viennent plus depuis le zonage Pinel, le nouveau zonage Pinel de 2014, donc ça fait 10 ans que rien de neuf ne s'est construit, que les seules choses qui ont été rénovées, ça l'a été pour les propriétaires investis, enfin pour les acquéreurs. Et donc, vous retrouvez des prix qui sont raisonnables, vous retrouvez des rentabilités qui sont au-delà de 4%. Donc, il n'y a pas de magie. On a une prime de risque pour l'investisseur particulier qui est intéressante, qui est suffisante pour accepter le coefficient d'emmerdement de l'investissement dans l'immobilier direct. Et en plus, sur des zones où vous rénovez des centres-villes. Ouais, donc, c'est vertueux à tout point de vue.
Moi, j'avais une question. D'ailleurs, j'ai beaucoup posé la question aussi à Franck Vigneault. On est quand même sur des zones détendues. Sur le de Normandie, alors globalement.
Vous êtes sur des zones qui ne sont pas détendues parce que vous allez, enfin la partie que vous rénovez va représenter la plupart du temps moins d'1% du marché locatif. Donc vous êtes sur des secteurs où vous avez éventuellement de la vacance, mais parce que vous avez des logements qui sont au mieux des passoires thermiques, au pire des endroits dont plus personne ne vit. Donc là, quand vous rénovez 1%, 2%, enfin, je pense qu'on peut rénover jusqu'à 20% de ces centres-villes.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, encore une fois, on revient sur un dispositif, parce qu'au-delà du fait qu'on s'adresse à de l'ancien rénové, c'est à peu près le même mécanisme que le dispositif Pinel avec des réductions fiscales. Mais si tu ne trouves pas de locataire, on va dire choses très simplement, si j'investis dans une ville où il n'y a personne pour louer, j'ai pas ma carotte fiscale. Hein.
Alors quand vous avez 40 000 habitants à Castres ou 60 000 à Béziers, vous avez des locataires. C'est-à-dire que le parc est de plusieurs milliers de logements, sauf que dans ces plusieurs milliers de logements, la plupart sont des passoires thermiques. La plupart des villes de France aujourd'hui, vous êtes entre 25 et 35% de passoires thermiques.
Oui, mais il faut voir.
Le 7e arrondissement, 40% de passoires thermiques.
Ne pas retomber dans les travers du Pinel. On se souvient des Robiens de la colère.
Les travers de la Robien, pas de la Pinel.
Oui, mais enfin, quand je disais. C'est pour ça que j'ai parlé des Robiens, mais quand je disais. On se souvient de. Quand on est mal zoné et qu'on n'investit pas au bon endroit, il y a quand même des risques. Donc il ne faudrait pas retomber là-dedans, quand même.
Alors, j'aimerais qu'on puisse risquer de retomber là-dedans. Ça voudrait dire qu'on serait sur des volumes significatifs. À 2000 logements rénovés par an en 2023, à l'échelle d'un pays entier, de 1800 communes éligibles, il y a un peu de marge.
Mais ça pourrait s'industrialiser. Hein,
bon, alors, c'est très compliqué en termes d'industrialisation. Les promoteurs s'y intéressent de plus en plus. Les gens qui font de la rénovation, des entreprises de travaux s'y intéressent. Enfin, la courbe, c'est 600, 1500, 2000, peut-être 3000 cette année. On parle là, non pas... Enfin, d'un parc, il y a 38 millions de logements en France, on parle d'un parc qui est quand même très significatif. Donc j'aimerais encore une fois que la réalité pour sortir de la crise du logement, c'est qu'il faut à la fois remettre sur le marché ces logements à rénover ou maintenir dans le marché des logements qui sortiront pour des raisons de DPE sinon, mais aussi construire du neuf. En fait, c'est pas où, c'est et. Et la tension sur le marché locatif aujourd'hui est telle qu'à moins effectivement de vous lancer dans la rénovation d'un bâtiment ou la conversion d'un bâtiment très significatif dans un village au fin fond, pardon, de la Creuse. Je vais prendre un exemple, je suis désolé pour les Creusois. Mais honnêtement, le risque locatif, la tension, même sur les petites villes aujourd'hui, les loyers ont pris 20% depuis 3 ans.
Ouais, non, moi je pense
c'est
vraiment
ça aussi le problème.
Sur le de Normandie, ça a vraiment du sens. Ça a du sens au niveau de la transition écologique, puisqu'il faut faire des travaux, 25% aussi de travaux dans le bien qu'on va acheter. Ça a du sens parce que le Pinel s'arrête au 31 décembre de cette année. Le de Normandie, il est prolongé jusqu'en 2027. Il faut déjà avoir ça en tête. Ensuite, quelles sont les villes considérées? C'est là où c'est intéressant. Il y a 234 communes qu'on appelle cœur de ville qui sont impliquées dans le de Normandie. Le placement patrimonial, c'est des villes comme quoi? C'est Caen, Angoulême, Brest, Lorient, Saint-Malo, Épinal, en Ile-de-France, il y a Fontainebleau, il y a Rambouillet, il y a Melun, Corbeil-Essonne. Voilà toutes ces villes où il y a un potentiel et des besoins de locataires aussi. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant de faire cette... C'est presque un acte citoyen. D'acheter un logement qui peut coûter, je crois que la moyenne, on le voyait justement avec Franck Vigneault, on est autour de 180 000 euros, que vous rénovez. Vous placez un locataire, vous avez voilà, ensuite un gain, c'est normal, un rendement aussi, mais vous participez, vous contribuez aussi quelque part à rénover. On parle tellement de régénération urbaine qu'on a besoin d'un investisseur et des investisseurs privés plutôt que l'investisseur institutionnel qu'on attend toujours. Et donc ça, plus cumulé avec, je pense qu'il y aura, et c'est le sens de l'histoire, un dispositif d'investissement locatif à la fois une valeur verte sur rénover l'ancien et aussi le neuf, parce que le neuf, on est aux dernières normes environnementales, on est en A, on est en B, on est au pire en C, mais on n'est jamais en F et G. Et donc ça participe en fait de quelque chose où on doit être mobilisé, on doit faire preuve aussi de prosélytisme là-dessus, de dire il faut y aller, c'est bon pour vous, pour le patrimoine, pour vos enfants, pour les générations futures.
Je trouve ça très beau, Olivier, mais donc du coup, on se satisfait de ce qu'on a, parce que là...
Non,
bah, j'ai dit et, pas où.
Et le 9. Bon, alors,
et le 9 aussi, il faut les deux.
Et Vlatipa, qu'on nous ressort un Pinel, élargir le dispositif sur le locatif intermédiaire aux particuliers. Quand on prépare l'émission, je demande à nos intervenants de m'envoyer des sujets, des thématiques qu'ils souhaitent aborder. C'est la thématique que souhaitait aborder Renaud Cormier. Alors, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que le locatif intermédiaire, on appelle ça le Pinel des institutionnels. Et là, vous me dites, il faut que le locatif intermédiaire revienne aux particuliers. Donc, on veut faire un Pinel pour les particuliers?
En fait, le gouvernement nous dit depuis maintenant des mois, et c'était notamment la grande idée portée par M. Vergrit, que la LLI est extrêmement vertueuse puisqu'elle permet d'offrir sur des zones tendues des logements neufs, donc de très grande qualité.
À loyer maîtrisé.
On peut juste repréciser ce que c'est la LLI.
Le logement locatif intermédiaire,
c'est le dispositif qui permet aujourd'hui à CDC Habitat ou à Action Logement de se porter acquéreur assez massivement auprès des promoteurs d'opérations pour lesquelles ils prennent un engagement de mise en location avec des contraintes de ressources des locataires et avec des loyers qui sont plafonnés.
10 à 15% moins élevés que ceux du marché.
D'accord. Il se trouve que ce sont exactement les mêmes critères que la Pinel. Ça n'est pas de ma faute.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais en préambule que le logement locatif intermédiaire, on appelle ça traditionnellement le Pinel des institutionnels.
La LLI a été mise en place en 2014 à la demande des institutionnels pour faire écho en fait, au Pinel.
Parce que de fait, les institutionnels ont des avantages à le faire.
Et il se trouve que le gouvernement et en tout cas le gouvernement précédent surtout pensait que les institutionnels pouvaient finalement se substituer aux particuliers. C'est une idée qu'on a combattue, non pas qu'ils ne puissent pas le faire, mais ils n'ont pas envie et pas les moyens de le faire, et les faits sont têtus. Hein, dans le cadre de la LLI, je crois que 2014 à 2022, il y a eu 54 000 logements de construits, c'est-à-dire l'équivalent d'une année financée par des particuliers. L'idée qui a ensuite flotté était de dire bah, « c'est pas grave, on va financer les institutionnels par le biais des SCPI ». Les SCPI, hein, c'est aujourd'hui collecter 10 milliards par an, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui était investi par les particuliers en Pinel. Aujourd'hui, c'est plutôt 5 milliards de collectés. Et les SCPI ont besoin aujourd'hui de moyenner à la hausse leur rendement. Et donc ne feront pas du logement résidentiel, puisque les rendements du résidentiel, c'est la classe d'actifs immobilières avec le rendement le plus faible et le coefficient d'emmerdement le plus élevé.
Ça leur rapporte rien du tout.
Donc, ils ne le feront pas. Et donc, de manière assez simple, à partir du moment où on nous dit eh « c'est génial la LLI », on dit « on est d'accord avec vous », mais dans ce cas-là, on a besoin et des institutionnels et à nouveau des particuliers. On souhaite également... Et ça, je pense que c'est quelque chose de très vertueux, une simplification de la fiscalité locative. Donc, on propose de ne pas rajouter un dispositif ou de ne pas rajouter une réglementation. On dit simplement, étendons le périmètre de la LLI qui est aujourd'hui à disposition des institutionnels aux particuliers, et on aura peut-être avec deux moteurs la chance de sortir la voiture de l'ornière, pour reprendre l'image de tout à l'heure.
Mais à l'image de ce que disait Olivier il y a deux minutes, c'est-à-dire... quand même en ciblant soit le neuf, soit les logements en tout cas performants pour avoir un effet positif.
De toute façon,
d'anciens remis à neuf.
Ouais.
D'anciens remis à neuf, mais les conditions, la de Normandie, on ne l'a pas précisé, mais dans le cadre de la loi de Normandie, vous êtes soumis au même plafond de loyer et aux mêmes contraintes de ressources des locataires.
C'est le Pinel pour la rénovation.
Le LLI pourrait être, enfin si on dit que le LLI est étendu aux particuliers, que le LLI s'applique au neuf ou à l'ancien rénové avec les critères de la loi de Normandie, c'est tout à fait possible. Et on irait effectivement dans le sens d'une simplification qui profitera à tous. Le problème qu'on a, c'est effectivement l'instabilité. Alors, politique, c'est une chose, mais l'instabilité réglementaire n'aide pas non plus. On sait que l'immobilier, c'est un marché de temps long. Et aujourd'hui, on va sans doute connaître notre troisième ministre du logement en 12 mois ou 13 mois.
On a le temps pour une dernière question, si jamais éventuellement.
Bah, un truc positif, parce qu'Olivier voulait nous dire comment le logement neuf, puisqu'on en a beaucoup parlé.
Je sais pas, il y a combien de temps ? Non, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses.
Il y a 10 minutes, non, je plaisante.
Non.
En matière de logement neuf, oui, en ce moment, c'est vrai qu'on voit beaucoup tout ce qui est les constructions sur l'ossature bois. Ça, c'est voulu aussi demander par les collectivités. Ça va beaucoup plus vite en matière de construction pour le confort de l'habitat. Ça se développe énormément. Alors, sur la construction en bois de logements collectifs, on est à 7 à 8% en France. On peut se dire, bon, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, la filière, elle se massifie.
Enfin, 7-8, ça me semble quand même assez important.
Ouais,
assez
significatif. Ça commence, ça se développe de plus en plus, en tout cas, il y a ça. Et puis, ce qui se développe énormément, c'est tout ce qui est construction hors site. Le fait de construire préfabriqué en atelier avant pour aller amener sur le chantier directement, c'est très important parce que vous avez moins de poussière, moins de rotation de camions, moins de nuisances en fait pour les riverains quand on sait que l'acceptabilité...
C'est un vrai enjeu ça.
Mais c'est un vrai enjeu, mais oui, et on est dans la décarbonation. Donc ouais. Là, tout ce qui est développement de hors-site en circuit court bas carbone, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et puis en finir avec les gaspillages aussi des mètres carrés, on connaît tous ces bâtiments qui sont ouverts de 9h à 18h, pas le soir, pas le week-end, ça pourrait servir aussi. C'est aussi faire preuve de sobriété, ce qu'on appelle la chronotopie des bâtiments. Utiliser l'intensité d'usage, pouvoir maximiser en fait les conditions pour des logements, pour des bureaux. C'est un véritable sens, là aussi, de l'histoire sur la régénération urbaine, la réversibilité des bâtiments. On le voit sur le village olympique, c'est ça là. Le permis de construire à double état, la fonction provisoire, on construit le village pour les athlètes, ouais. Et la fonction long terme, pour les habitants, 6000 salariés, 6000 habitants, 52 hectares à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen, l'Île-Saint-Denis. Penser, voilà, en amont beaucoup plus les projets, concerter les habitants plus, en tout cas le neuf sur ce volet-là et sur la régénération urbaine, je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est pas évident, mais on va dans la bonne direction.
On termine quand même sur une note un peu positive. Merci beaucoup Olivier Marin, rédacteur en chef propriété Le Figaro. Renaud Cormier, président de l'Association française de l'immobilier locatif qui était avec nous, hein, et directeur général de TZIS. Hein, à bientôt dans cette émission. Puis Marie, on se retrouve lundi.
À lundi.
Avec grand plaisir. Et on parle crypto dans quelques minutes.
Tout pour investir. Investir autrement.
Alors, on va parler crypto-monnaie avec Amaury de Tonquédec, notre expert maison. Merci d'être avec nous. Peut-être commencer par un petit point marché. Je regardais tout à l'heure, on est du côté des 67 000 hein, sur le Bitcoin. On n'a pas fait grand-chose. On a pris une correction fin de semaine dernière. Et depuis, ouais, on reste... pas immobile, mais au moins stable sur parce que au milieu de toute l'agitation du moment sur les marchés européens, ça passe un peu à l'as, mais oui, au moins il y a un peu de stabilité du côté du Bitcoin.
C'est ça. Alors on est deux mois après le halving, événement important. D'une manière générale, lors des précédents halving, le marché repartait environ 100 jours après. Donc là, ça nous amène, si on suit ça, environ dans deux petits mois pour une reprise potentielle. Maintenant, on voit bien que les cryptos attendent la Fed. Antoine, a priori, c'est quoi la prochaine baisse de taux de la Fed ? Ce serait potentiellement en septembre prochain ?
Alors, on n'est plus sûr. En tout cas, c'est une avant la fin de l'année, septembre. Septembre, on commence doucement à pricer un petit peu plus longtemps après. Donc, il y a un peu d'incertitude.
Le catalyseur que le marché attend, pour l'instant, sauf cas de force majeure, c'est ça. Maintenant, sur le marché, en gros, pendant une semaine, le Bitcoin a tenu le support des 69 000 dollars, un support important puisque c'était le record précédent du Bitcoin qui date de 2021. Maintenant, le nouveau record absolu du Bitcoin, c'est 73 000 dollars qu'on a eu à la mi-mars. En début de semaine, on a lâché le support des 69 000. On est repassé sur les 67 000. Là, on est à 67 000 dollars avec un Bitcoin qui est légèrement dans le rouge. Bon, les événements politiques, ce qui se passe chez nous, finalement, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur le Bitcoin. Hein, parce que c'est très européen ce qui se passe. Alors que le Bitcoin, pour le faire bouger, c'est plus des événements... encore plus internationaux, on va dire. L'Ethereum, lui, a tenu aussi le support des 3700 dollars pendant une semaine, qu'il a cassé aussi en début de semaine. On est aux alentours des 3500 dollars. Puis maintenant, la question, c'est les ETF Ethereum Spot ont été approuvés officiellement, mais ils ne sont pas encore listés. Gary Gensler, le président de la SEC,
Oui, il y a eu une alerte hier. Il a dit que, a priori, c'était bon pour le courant d'été.
On pourrait les avoir avant cet été. Ça pourrait faire accélérer le marché. Maintenant, on n'est pas dans la même situation que pour les ETF Bitcoin Spot. Les ETF Bitcoin Spot, il y avait eu beaucoup plus de communication avant. Il y a des fonds qui s'étaient positionnés avant. Là, tout le monde a été un peu pris de court sur les ETF Ethereum Spot. Et puis, c'est plus difficile d'expliquer ce qu'est Ethereum que d'expliquer ce qu'est le Bitcoin.
C'est la crypto des geeks, de ceux qui ont vraiment les mains dans le cambouis. C'est pas vraiment la crypto du grand public, l'Ether, à part allez, 10% d'initiés, on va dire. C'est moins un marché de masse que le Bitcoin. En fait, il y a moins de hype, il y a moins de...
Clairement, maintenant, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'on peut faire, on peut avoir un rendement passif sur l'Ethereum. Le fameux staking. Ouais. Donc actuellement, c'est quoi? C'est 3 à 4% de rendement par an. Ça peut être intéressant. Si jamais ça, c'est intégré dans les ETF, ça va dépendre de ce qui se passe juridiquement, mais si jamais ça peut être intégré dans les ETF, ça pourrait faire quelque chose de compétitif par rapport au Bitcoin, où le Bitcoin, il n'y a pas de rendement passif dessus.
Parce qu'on le rappelle, les autorisations qui ont été données par la SEC, c'est pour des ETF spot sur le cours de l'Ether, mais ça inclut pas le paramètre rendement passif.
Non, pour l'instant, il n'y est pas. Hein. Maintenant, si jamais il est ajouté, clairement, ça pourrait changer la donne. Donc, on verra.
Bon, on va peut-être parler un petit peu de politique. Alors, à brûle pour point. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est Donald Trump qui dit « Moi, je veux un Bitcoin made in America ». Bon, on lui explique que... Alors, je sais pas, c'est décentralisé le Bitcoin.
Après, il se renseigne de plus en plus, il apprend de plus en plus.
Non,
sur
mais
Bitcoin,
c'est bien.
Voilà.
C'est bien.
Non, mais ce qui.
Je pense qu'il réagissait surtout à l'extension et à la dynamique de développement des grandes fermes, des gros mineurs,
absolument.
Du genre Riot, etc.
Ce qu'il voudrait, c'est centraliser un maximum les activités de minage aux États-Unis. Alors, comme c'est décentralisé par nature, c'est un peu compliqué.
C'est ça.
Mais l'idée, c'est d'avoir un terrain le plus favorable possible aux entreprises de minage aux États-Unis pour qu'en gros, il y ait le plus de mineurs de Bitcoin sur le sol américain. Voilà. Maintenant, ce qui se passe du côté des États-Unis, c'est assez intéressant, c'est que au niveau de la politique américaine, l'élection présidentielle qui arrive en novembre de cette année, on voit que, par rapport à l'Europe en tout cas, ça fait gagner plus de voix de se positionner en faveur de l'écosystème Web3 aux États-Unis, même ça en ferait presque perdre de ne pas se positionner dessus. Alors que chez nous, en Europe, pour l'instant, c'est pas vraiment un sujet. Pour les élections européennes, à part le parti pirate, qui est assez marginal dans les pourcentages.
Personne n'en parle.
Personne n'en parle. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. En tout cas, pour l'instant, en Europe, ça ne rapporte pas de voix, en tout cas de manière massive, de parler du Web3. Donc, pour l'instant, c'est assez absent de la campagne. Alors que notre souveraineté est en jeu. On a MiCA, Marketing Crypto Asset, le règlement européen qui arrive très bientôt.
C'est ce que j'allais vous dire, Amaury. En fait, le problème, c'est qu'en Europe, on réagit de manière réglementaire, on ne réagit pas du tout de manière politique au Bitcoin, ce n'est pas un enjeu. On régule,
c'est bien de réguler. Il se trouve qu'on avait une longueur d'avance, entre guillemets, par rapport aux États-Unis où il n'y avait pas de cadre réglementaire clair, sauf que là, chez eux, c'est en train de beaucoup bouger politiquement, donc la réglementation va évoluer. Et si la réglementation évolue plus vite que chez nous, eh bien, on pourrait se retrouver, nous, en Europe, oui, avec un cadre réglementaire clair, mais sans acteurs européens à réglementer. Et ce serait dommage.
Merci Amaury. Fin de ce Tout pour investir. Ben on se retrouve lundi. Sofiane Aklouf.
Hello à tous.
Avec vous, avec nous sur ce plateau. Alors quel sujet pour aujourd'hui ?
Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez le Focus Friday, les amis. C'est un dispositif qui nous vient des États-Unis, adopté déjà par Slack ou Google, et qui permet en fait d'éliminer toutes les réunions de votre agenda du vendredi, pas de déplacement, pour vous concentrer uniquement sur les tâches à boucler avant la fin du week-end et essayer en creux évidemment d'être un peu plus productif le vendredi, parce que c'est le problème de ce jour où on lève un petit peu le pied. Alors on vous a posé la question sur les réseaux sociaux de BFM Business. Est-ce que vous êtes moins productif le vendredi ? Vous avez répondu et on en parle dans un instant avec nos experts.
L'appli qui vous aide à vous concentrer sur ce que vous devez faire. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On reste focus ce vendredi. À vous dans quelques minutes avec Sofiane et nous on se retrouve lundi dans Tout pour investir. Au revoir.
Tout pour investir sur BFM Business.